Bonjour. Bonjour. Merci à toutes les personnes qui sont présentes d'être là, les personnes qui sont là depuis ce matin et celles les nouvelles arrivantes. D'abord, j'ai une question. Est-ce que Sophia est là par hasard? Non. Du coup, on se demande si Sophia arrive à un moment, elle pourra vous présenter plus précisément le lieu dans lequel on est, qui est la Cité de l'Agriculture, et qui nous a accueillis. Qui nous a accueillis un peu last minute après une annulation de la part de la Bourse du Travail et de l'UD de la CGT, sur laquelle on ne reviendra pas. Un peu comme Robin ce matin, moi aussi je suis hyper stressée, du coup je vous prie de m'excuser par avance pour le stress. Moi je vais un petit peu lire, moi je vais m'occuper de faire une petite introduction en faisant la transition par rapport à ce matin et en présentant quelques-uns de nos intervenants. Ce matin on a vu avec l'expérience des travailleuses et militants précarisés par le régime capitaliste, des personnes sexisées ou racisées ou avec des statuts fragiles, que s'organiser dans des luttes collectives et structurées, ça fonctionne, et que c'était aussi super important de se remémorer toutes les luttes qui sont pas racontées dans les livres d'histoire, qui sont jamais relayées dans les médias et qui tentent à nous faire croire que la situation dans laquelle on est impossible à contrer. Ah oui, c'est vrai que je ne me suis pas du tout présentée. Oui, c'est vrai qu'on avait dit qu'on se présenterait. Alors moi, je m'appelle Miel, je suis militant à Travailleuse de l'art 13. Je vais rejoindre le STAR, j'ai le PDF mais je ne l'ai pas encore renvoyé. Et voilà, donc très prochainement syndiqué. Et j'ai rejoint la BUSE il y a peu de temps, qui est un collectif de Travailleuses de l'art. Et par ailleurs, je suis plasticien de formation, mais maintenant je fais plutôt de la recherche et j'ai arrêté de faire de l'art contemporain. Voilà. Et Emmanuel, tu veux te présenter?
Du coup, je m'appelle Emmanuel, je suis plasticien, je suis militant dans le groupe de travail La BUSE, dans Travailleuses de l'art 13, pardon, et au STAS NTSO.
Ok. Ouais, du coup j'étais toujours sur le matin qui était super et qui nous ont fait comprendre ou qui nous ont répété à quel point c'est nécessaire de penser à des luttes intersectorielles, faire converger nos luttes et surtout même quand, particulièrement quand on est des travailleuses dites autonomes et qui peuvent avoir un intérêt tout aussi similaire qu'à des salariés à se syndiquer, même si on pourrait avoir l'impression à première vue que c'est pas le cas. Cet après-midi, on va être plus dans la prospective, du coup aller vers, se demander vers quels avenirs désirables peuvent nous mener ces luttes. Dans le monde de l'art, on nous dit souvent que notre rôle, c'est d'ouvrir les imaginaires. Du coup, là, c'est un peu ce qu'on va faire. Mais on va essayer d'envisager des imaginaires un peu plus communistes, autogestionnaires et syndiqués que ceux qu'on nous invite à montrer dans le monde de l'art habituellement. Et pour ça, je vais faire un très rapide état des lieux du rôle social de la qualification comme art et comme artiste, avec d'abord les conséquences des hiérarchies des artistes sur les artistes et sur les cultures. Déjà de dire, ça me semble important de dire que la conception patrimoniale de la création, c'est-à-dire l'idée que l'artiste n'est pas un travailleur ou une travailleuse, mais un créateur ou une créatrice, propriétaire d'un capital, d'une personnalité qu'il doit promouvoir au regard de celle de ses concurrents. Du coup, en fait, pour réussir en tant qu'artiste, on doit prouver qu'on est meilleur que ceux qui nous entourent. Ça nous soumet au pouvoir de sélectionneurs et de sélectionneuses qui sont les seuls à même de décider de ce qu'on vaut et qui contrôlent nos conditions matérielles et symboliques d'existence, et ce, dans une très grosse opacité. Enfin, on a très rarement accès aux critères de sélection. Comme c'est une évaluation qui est proportionnelle à la valeur des concurrents, ça tend à nous isoler et ça rend aussi les luttes plus difficiles. À côté de ça, il y a aussi une hiérarchie des arts, du coup des productions et donc des arts. Les œuvres et cultures sont elles-mêmes soumises à l'approbation d'experts qui les hiérarchisent. Et toutes les formes d'expression et esthétique et idées ne sont donc pas reconnues. Donc au final, pour aller très vite, la qualification comme art et comme artiste dans les mondes de l'art élitiste sert ainsi à hiérarchiser les individus et leur culture et permet d'en promouvoir certaines tandis que s'en invisibilise d'autres. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une certaine politique d'inclusivité pour montrer des vécus, des connaissances ou des idées qui étaient invisibilisées jusque-là. Du coup, il y a une mise en avant, ce dont on a parlé très rapidement ce matin, de certains vécus minoritaires qui vont être mis en avant dans certaines institutions. La permanence, vous en avez relevé certaines limites. Et au-delà de ça, en fait, s'attendre uniquement à être sélectionné par des personnes par le haut pour être reconnu, au final, ça nous amène à être sélectionné, à soumettre notre visibilité à l'État et à des capitalistes qui, en sélectionnant les structures qui financent et par extension les créatrices et luttes visibles, grâce au régime élitiste de l'art, s'octroient le pouvoir de choisir qui peut représenter les causes, ce qui peut être revendiqué. Et c'est une question qui peut s'étendre en fait à toutes les causes sociales, avec tous les phénomènes de washing qu'on connaît bien. Et ce qui est... l'instrumentalisation des cultures, je voudrais finir là-dessus, est particulièrement grave. En fait, on pourrait dire que c'est pas si grave parce qu'au final, on peut lutter à côté. Mais c'est particulièrement grave dans un contexte où les politiques françaises attaquent sans ménagement les luttes pour l'égalité réelle et autogérée, répriment toute forme de contestation et toute expression dérogeant au récit dominant. On l'a vu avec la répression des révoltes suite au meurtre de Naël très récemment, ou dans la tentative des dissolutions des soulèvements de la Terre, pour ne citer que ces deux événements. Du coup, au final, ces programmations inclusives et ces mises en avant finissent par donner une fausse image d'un État progressiste qui, en fait, ne l'est pas du tout. Donc voilà, constat très déprimant. Que faire face à tout ça ? Sachant qu'en plus, quand on a une production ou un travail qui produit pas de valeur en termes capitalistes, c'est-à-dire qu'on produit des choses, de la nourriture, des échanges ou des objets qui ne valorisent aucun capital, comment on peut se soustraire à toutes les logiques de mécénat, de philanthropie ? Et ce d'autant plus si l'émancipation demande d'imposer des contre-discours, du coup, comment faire en sorte d'accéder librement à l'expression sans perdre le contrôle et l'usage de son propre récit ? Et c'est ce qu'on va, on va aborder, des solutions qui me semblent hyper prolifiques pour aller là-dessus cet après-midi, avec l'hypothèse que la réappropriation des moyens de production et que la socialisation de la valeur sont des voies d'émancipation possibles, ce qui passe par changer à la racine la manière dont on décide de ce que valent les choses, dont on produit cette valeur et des conditions de sa redistribution. Et voilà, bon, c'est ce qu'on va explorer avec nos intervenants et intervenantes, que je vais commencer à présenter. Tout d'abord, Victor Duchesne, économiste de la santé et de la protection sociale, docteur en sciences économiques de l'université Sorbonne Paris Nord, et tes travaux portent sur l'étatisation de la sécurité sociale et la mise en marché de l'assurance maladie complémentaire. Deux membres qui ont participé à des mutuelles autogérées qui vont intervenir cet après-midi en tant que participantes au sein de ces mutuelles, qui regroupaient des travailleuses de l'art, des espaces qui permettent des soutiens financiers, questionnent sur la thune et réflexion plus large sur le travail.
À ma droite, vous avez Élodie Magnaval, qui travaille au sein de Parole Vive, une association marseillaise de recherche action en sciences humaines et sociales. Depuis 3 ans, elle réalise un travail de recherche dans le sud du Luberon autour de l'expérimentation d'une caisse locale de l'alimentation menée par le CLAC, collectif local de l'alimentation de Cadenet. Son rôle est de documenter le processus par de l'observation participante, des questionnaires et entretiens auprès des participantes. Une attention particulière est mise sur l'analyse de la démocratie participative, d'une part à travers l'expérimentation et d'autre part au sein du collectif. Et à terme, il sera question d'analyser les effets de l'utilisation d'une carte de sécurité sociale de l'alimentation auprès des expérimentateurs et expérimentatrices. J'ai voulu le faire en inclusif, ça m'a complètement sifflé, mais aussi pour le territoire.
Et la CLAC, ça peut marcher, hein, c'est la collective, ça marche bien.
Oui, mais alors le collectif au début, c'est dénommé le CLAC, et ensuite la caisse devient la CLAC.
Merci pour la précision. Et à ma gauche, Rémi Cardinal, qui est pianiste concertiste de musique classique, enseignant titulaire de la fonction publique territoriale et militant politique dans l'association d'éducation populaire Réseau Salariat, que certaines et certains ici connaissent. Ce qui fait de lui un artiste assez original quand on connaît le milieu bourgeois dans lequel il navigue. j'aurais aimé inventer cette bio, mais c'est pas de moi, c'est de Rémi. Sa rencontre avec les thèses de Bernard Friot l'a mené à s'investir dans Réseau Salariat depuis de nombreuses années. Il coanime à présent le groupe Culture qui vient de terminer son séminaire autour d'une sécurité sociale de la culture à la Bourse du Travail à Paris, qui fera l'objet d'un livre aux éditions du Croquant courant 24. Tous les séminaires ont été filmés et sont disponibles sur la chaîne YouTube. Je vous les recommande, ils sont hyper intéressants. Cette double activité d'artiste militant l'a conduit à avoir toute une réflexion sur le mode de production actuel de l'art qui altère fortement la création artistique et subordonne tous les travailleurs et toutes les travailleuses de la culture aux décideurs, qu'ils soient dans le domaine public ou privé. C'est au sein de son ensemble musical marseillais, l'Armée des Romantiques, dont il est fondateur, qu'il essaie d'œuvrer à des réalisations concrètes de son engagement politique. Donc, nos invités vont vous parler dans cet ordre-là. C'est des interventions de 20 minutes à peu près. Je ferai 10 minutes de conclusion pour parler un petit peu de la situation des artistes, auteurs et autrices, parce que bon, on vous a mis des brochures partout, on va quand même en parler un petit peu. On fera une petite pause, parce que ce matin, c'était très très dense. Du coup, comme ça, vous avez le temps de réfléchir aux questions que vous voulez poser, etc. Et ensuite, on reviendra pour un temps de discussion, une heure et demie, selon notre énergie et nos envies. Par la suite, il y aura un moment d'apéro auquel on vous convie tous et toutes, évidemment. Le soir, il y aura un repas super du chef Barbarin. Et pendant tous ces temps-là, vous pouvez acheter des bouquins à Transit Librairie, qui nous fait le plaisir d'avoir une petite table avec beaucoup de ressources qui viendront un petit peu documenter tout ce dont on parle aujourd'hui. Voilà, donc on va commencer par toi, Victor.
Bien, merci. Merci tout d'abord aux travailleurs de l'art, aux travailleurs et travailleuses de l'art du 13 pour cette invitation. C'est un vrai plaisir de pouvoir venir parler des questions de sécurité sociale. Alors, je vais m'appuyer pour mon intervention, puisque il aurait pu être là, bien sûr, bien volontiers, sur le petit livre moutarde, on va dire, de Nicolas Da Silva, que certains connaissent sûrement d'entre vous, qui s'appelle La bataille de la Sécu, une histoire du système de santé, préfacée par Bernard Friot, qu'un réseau salariat vous connaissez bien évidemment très bien, et publié aux éditions La Fabrique en 2022. Et puis un autre livre, peut-être plus général, puisque c'était la commande de parler de sécurité sociale et de santé, Économie de la santé, c'est publié encore là par Nicolas, Philippe Batifoulier et Jean-Paul Demain, qui sont d'autres économistes de la santé, un peu dans la même veine, même dans la même veine. Voilà, publié chez Armand Collin il y a quelques années, mais qui reste un bon moyen de se saisir de ces questions-là. Parce que ce que je vais essayer de vous dire très brièvement, là, en un peu moins de 20 minutes, peut sembler trivial pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la sécurité sociale et les raisons de son développement, son fonctionnement. Mais pour aujourd'hui, la grande majorité des gens, la sécurité sociale, ça n'est ni plus ni moins que la carte vitale, une émanation de l'État, un coût. On parle du trou de la Sécu chaque année, éventuellement les lois de financement de la sécurité sociale. Bref, quelque chose d'assez obscur, qui fonctionne pas forcément très bien et qui pourtant est essentiel dans nos vies. Et en tant qu'économiste, je vais commencer par un point fondamental, la cotisation sociale. Mais il y a quatre grandes dimensions dans la sécurité sociale qui sont particulièrement importantes. Donc, des enjeux économiques autour de la cotisation sociale qui jouent un rôle central dans notre système économique et la dynamique du capital et du travail. C'est les deux grands aspects. Un enjeu de pouvoir, ce que Nicolas a beaucoup développé dans son livre notamment, avec ce principe fondamental qui nous vient de la mutualité, cette gestion par les intéressés. Et puis, des aspects d'organisation du système, ce sont des caisses, c'est tout un réseau très complexe à première vue, mais en réalité très simple, si on était resté sur quelques fondamentaux et sur quelques idées de départ. Et tout ça pour faire quoi, cette institution économique qui porte un pouvoir politique et qui a son organisation propre, pour assurer la production d'un certain nombre de services, notamment des services de santé, mais pas que, ça j'y reviendrai juste après. L'enjeu fondamental, et c'est ce qui guide un peu l'intervention, c'est d'arriver à faire le distinguo clair entre ce qu'on appelle l'État social, un État bienveillant qui s'occupe de nous, qui assure notre sécurité sociale, et ce qu'on va appeler la sociale. Cette idée que les travailleurs et les travailleuses, par eux-mêmes, via une institution particulière, ont assuré une réponse collective à leurs besoins dits sociaux et peut-être même à plus que ça, et c'est les idées qui existent avec la sécurité sociale de l'alimentation, de la culture, etc. Après, on peut généraliser le principe. Alors, sur la cotisation sociale, l'enjeu essentiel, c'est de se souvenir que dans une société capitaliste où le salariat est devenu la norme d'emploi principale, la rémunération du travail passe par le salaire, et que sur ce salaire, dans ce salaire, hein, il y a bien sûr ce que vous touchez à la fin du mois, hein, je ne parle pas du prélèvement à la source de l'impôt, hein, mais vraiment ce que vous touchez. Et puis il y a une dimension que vous ne touchez pas directement, que vous ne toucherez d'ailleurs jamais, puisqu'il y a un autre mécanisme à l'œuvre, qui est une part socialisée de ce salaire. Cette socialisation du salaire, cette mise en commun au niveau d'un groupe de personnes, des travailleurs salariés à l'origine, mais de l'ensemble de la classe ouvrière en réalité, hein, derrière, se fait via la cotisation sociale, c'est-à-dire une part de votre salaire calculée à partir de votre salaire brut, hein, qui est mise dans ces caisses de sécurité sociale. Alors, ce mécanisme-là, qui finalement est assez simple, a une conséquence directe, tel qu'il a été conçu dès le départ, c'est qu'il vient modifier le rapport capital-travail. Il vient modifier la distribution des revenus. Pourquoi, lorsqu'on parle de la cotisation sociale comme vecteur d'émancipation, on parle de ce qu'on appelle, de manière un peu abusive, la cotisation sociale dite patronale, hein ? Cette idée que le patron, il paye la sécu. Non, non. Dans un système capitaliste, on voit ses fondamentaux là-dessus, l'ensemble des richesses sont produites par les travailleurs. Si vous avez des machines dans une pièce et que vous n'avez personne pour les mettre en œuvre, il se passera strictement rien. Même si c'est de l'IA derrière, hein, je ne sais quel autre débat sur les robots. Voilà, voilà, il y a cet enjeu-là. Et donc, l'enjeu, c'est de récupérer un maximum de la valeur produite à travers notamment cet outil qu'est la cotisation sociale, puisque bien sûr, hein, l'enjeu pour le patronat, c'est de nous en redonner le moins possible de cette valeur que nous produisons, hein, et de garder un maximum pour lui, si je le dis en des termes simples. Et donc, cette cotisation sociale, dite patronale, en fait, elle vient augmenter ce qu'on appelle aujourd'hui communément dans le langage le coût du travail, mais en fait, qui n'est ni plus ni moins que la part des richesses qui est censée nous revenir, sachant que normalement, si on pousse la logique jusqu'au bout, c'est la totalité. Donc, elle modifie ce rapport capital-travail. On vous verse votre salaire et quelque chose en plus qui sert collectivement immédiatement, et lui immédiatement a son importance. À l'opposé, hein, vous avez l'État. Et le principe de redistribution. Redistribution, c'est bien, c'est la solidarité, c'est les impôts, c'est la fiscalité progressive. Il faut taxer les riches pour pouvoir financer ensuite des prestations sociales. Hein, ça semble être une bonne idée. Oui, mais là, on se place après la distribution des revenus. Et c'est là qu'il y a une grande différence. La cotisation, on vient renforcer ce qui revient aux travailleurs. L'impôt, on a distribué ce qui revient au capital, ce qui vient aux travailleurs, entre les travailleurs, avec des inégalités d'ailleurs, au passage, et on vient prélever un impôt, une fois que cette distribution est faite, pour assurer de la solidarité. C'est une autre logique, radicalement différente, puisqu'elle ne touche pas au rapport capital-travail, qui est essentiel dans une société capitaliste, qui est même l'enjeu, finalement, de la chose. Alors, cette cotisation, immédiatement, je vous ai dit, il est utilisé immédiatement, c'est important, parce que c'est le principe en matière de retraite qu'on connaît assez bien, le principe de la répartition. Hein. Donc, ce principe que vos cotisations, aujourd'hui, on ne les met pas de côté, on ne les inscrit même pas sur un compte, vos cotisations. Elles servent directement à payer les pensions, les prestations maladie, etc. C'est utilisé immédiatement. Comme si on opérait un transfert de la richesse créée et une autre répartition de cette richesse créée. Et là, on a une utilisation directe, hein, en fait, des choses. Et c'est ça le point central de ce système. Le deuxième point central, c'est la question politique. Donc une dimension économique, une dimension politique, c'est c'est sympathique hein, de mettre en commun ces ressources, de socialiser une partie de la valeur, de trouver ce moyen pour en récupérer. Mais la sécurité sociale, elle se caractérise... Alors la sécurité sociale, quand je dis sécurité sociale, je fais référence au régime général de sécurité sociale qui concerne les travailleurs salariés à l'origine, mais ça, j'y reviendrai un peu après. Et l'enjeu derrière, c'est l'enjeu du pouvoir. Mettre en commun des choses, c'est une chose. Le contrôler, c'en est une autre. Et donc, la sécurité sociale, elle repose sur un principe fondamental de gestion par les intéressés. Les travailleurs socialisent une partie de leur salaire, alors ils assurent un contrôle politique dessus. Alors, ce contrôle politique, hein, il passe à travers son propre système politique qui est parallèle à celui de la démocratie dite parlementaire qu'on connaît en France à l'époque sous la 4e République, hein, puisque vous avez ce qu'on appelle la démocratie sociale au sens propre du terme, qui est une démocratie élective, au même titre que vous avez des élections législatives, vous avez des élections à la sécurité sociale. Vous élisez pas des députés, vous élisez des représentants des travailleurs dans les caisses de sécurité sociale. Et vous les élisez, le taux de participation, il est à peu près similaire, hein, à peine plus faible que les législatives. On est sur vraiment un enjeu très fort. Et ces travailleurs donc, qui sont présents pour 3/4 des sièges des conseils d'administration, des caisses primaires de sécurité sociale, l'autre quart revenant au patronat, vous avez quelques sièges qui traînent pour la mutualité, les médecins, bon, voilà, ça c'est du détail. Donc les patrons sont absents, hein. Ils ne sont pas éliminés, mais ils sont absents. Voilà, tout du moins peu présents, on va dire. Et avec cette idée, donc, ce sont les intéressés qui gèrent. Alors, ça veut dire quoi, gérer une caisse de sécurité sociale à l'époque? Là, on est entre 46 et 60. On va s'arrêter en 60, je vais vous dire pourquoi. Gérer une caisse de sécurité sociale, ça veut dire nommer le directeur. Pouvoir le démettre s'il ne fait pas son travail. Le directeur et l'ensemble du personnel de direction. C'est contrôler un certain nombre de commissions qui vont décider de l'attribution des fonds et notamment des commissions d'action sanitaire et sociale qui vont, par exemple, permettre la création d'un certain nombre de centres de santé. S'il y a eu des centres de santé de sécurité sociale, c'est parce que vous avez des administrateurs salariés qui ont dit « mais là, on a besoin de créer une réponse concrète ». C'est contribuer, puisqu'à l'époque, les conventions sont départementales, d'assurer des négociations sur les tarifs avec les médecins. À l'époque, ça c'est, j'y reviendrai juste après. Et donc, voilà, c'est plein d'actions concrètes qui font que rien de ce qui se passe dans une caisse de sécurité sociale n'échappe à ses représentants. Aujourd'hui, c'est un peu comme si, comme ça devrait être le cas, par exemple, à l'université, normalement, un enseignant-chercheur, il y a encore une démocratie, il peut contrôler ce que fait l'administration. Dans une entreprise, c'est un peu ce mythe d'élus du personnel ou de représentants salariés qui pourraient décider. Ou même mieux, en santé, pour ceux qui connaissent, vous avez des agences régionales de santé aujourd'hui qui décident de si on ferme, on ouvre un hôpital, etc. etc. Là, c'est comme si le directeur de n'importe quelle administration était soumis au contrôle de gens élus. Alors, c'est censé être le cas, hein, voilà, dans les communes, par exemple, mais ça disparaît. Mais à l'époque, il faut se dire qu'en matière de sécurité sociale, c'est ça. Alors, l'enjeu, il n'est pas mince, hein, puisque dès les années 60, on va atteindre un budget de la sécurité sociale similaire au budget de l'État. En termes de volume monétaire. C'est énorme, en fait, comme idée. Alors, cette représentation politique des travailleurs sur liste syndicale, on est directement attaché au monde du travail, hein, elle s'exerce aussi à travers une fédération nationale des organismes de sécurité sociale, une union nationale des caisses d'allocation familiale, qui négocie avec le gouvernement la politique de sécurité sociale. Bref, qui s'y oppose, hein, disons-le clairement, puisque tout l'enjeu de la période, c'est de revenir... de revenir dessus. Donc il y a un véritable contrôle et c'est cet enjeu qui est vraiment primordial alors qu'aujourd'hui hein, a quasiment disparu. Il en reste encore quelques traces, mais en matière de santé par exemple, une caisse primaire d'assurance maladie n'a même plus de conseil d'administration, elle a un simple conseil qu'on informe et en fonction du directeur nommé directement par un directeur général, lui-même nommé par le ministre, bon... On a plus ou moins d'informations, mais il y en a encore. si vous vous rapprochez des organisations syndicales, vous pourrez éventuellement être administrateur ou conseiller dans ces caisses, mais avec beaucoup moins de pouvoir. Donc on a l'aspect économique, on a l'aspect du pouvoir, on a des aspects d'organisation. Cette sécurité sociale, ce régime général dont on parle, il a existé concrètement. Il a existé concrètement de 45 à 67, vraiment dans sa version un peu plus d'origine de 45 aux années 60. Vous avez des réformes un peu techniques, budgétaires qui viennent amoindrir les pouvoirs, renforcer le contrôle de l'État. Et en fait, c'est une organisation, donc vous avez une caisse primaire de sécurité sociale, vous avez des caisses régionales de sécurité sociale, hein, qui seraient un peu l'équivalent alors des CEPAM d'aujourd'hui. Ces caisses ne sont pas séparées en risque. Hein, voyez, on ne gère pas séparément la retraite, de la santé, des accidents du travail. Hein, voyez. Il y a une seule caisse nationale, mais qui est une pure entité technique. Hein, de centralisation des fonds. L'enjeu politique, c'est par la Fédération nationale des organismes de sécurité sociale qui représente les administrateurs dans les différentes caisses. Hein. Donc c'est beaucoup plus politique qu'aujourd'hui. À côté de cette organisation en caisse, alors vous avez les CAF qui sont créées hein, dès 45. C'est une petite anomalie à cause du mouvement familialiste français proche de la chrétienté, des milieux conservateurs qui explique que la famille, non, la famille c'est à part. Bon, c'est un problème d'ailleurs parce que du coup on dissocie les choses. À côté de ça, vous avez, parce qu'il faut en parler, parce que en termes d'inspiration et d'exemples concrets de ce qu'on peut faire aujourd'hui, de ce qu'on pourrait faire finalement assez facilement, vous avez l'enjeu de ce qu'on appelle les régimes spéciaux ou particuliers, ces puissants fonds qui coûtent de gens privilégiés, enfin vous voyez un peu l'idée. La CGT a une expression plus parlante, qu'elle parle de régime pionnier. Pionniers parce qu'ils sont en avance sur leur temps et sur leur organisation, puisqu'ils ont des droits plus élevés en matière de sécurité sociale et constituent en cela une source d'inspiration non négligeable. Et donc là, hein, c'est pourquoi j'en parle à côté du régime général, c'est que ces différents régimes de sécurité sociale sont clairement adossés à des statuts. D'un côté, vous avez le statut salarial, d'autre côté, vous avez ces statuts de différentes professions. Et là, c'est ce point essentiel, c'est qu'on ne peut pas dissocier la sécurité sociale du statut salarial. Vraiment, cette idée, cette norme qui tend à se développer, du CDI, de l'encadrement des salaires via ce qu'on appelle une échelle mobile des salaires, via les classifications, l'enjeu de la rémunération à la qualification, etc., qui font tout un ensemble hein, qui permettent, du point de vue de la sécurité sociale, d'assurer sa viabilité économique, etc., etc. Et donc, tout ceci, mis bout à bout, permet d'assurer concrètement un certain nombre de choses. Et j'en terminerai par là, parce que ça doit être à peu près le bon. Des choses très concrètes. Alors, sur la santé, tout d'abord, c'est le développement du système hospitalier français. Si nous avons encore, ou eu, je ne veux pas dire eu parce qu'il existe encore, même s'il va très très mal, si nous avons un système hospitalier public français, alors public ne veut pas dire étatique. Hein. Ça, c'est un point sur lequel Nicolas revient beaucoup dans son livre. Hein. Public ne veut pas dire étatique. Hein. L'hôpital, il n'est pas public en France. Enfin, il est public, mais il n'est pas étatique. Il a une fonction publique propre, donc un statut du personnel propre, il a une comptabilité propre historiquement, en fait, il est lié à la sécurité sociale et aux collectivités locales, aux communes. Bon. Alors, cet hôpital public, il est financé directement par la sécurité sociale. Quand vous allez à l'hôpital, modulo un aspect sur lequel je vais revenir, en fait, vous ne payez pas, c'est la sécu qui verse directement à l'hôpital. Dans les années 50 et 60, c'est la sécurité sociale qui finance l'hôpital public. Il n'y a pas de dette de l'hôpital public pour financer l'investissement, etc., contrairement à aujourd'hui. Donc, vous avez un financement direct de services et derrière, ce sont des centaines de milliers de travailleurs et de travailleuses, surtout, qui sont en charge des soins. À côté de cela, vous avez une médecine libérale. Alors, la médecine libérale, c'est la fameuse médecine de ville. Donc, quand vous allez chez votre médecin généraliste, là, c'est lié à l'histoire de la profession médicale en tant que telle. Et donc, là, vous êtes remboursé par la sécurité sociale à condition que votre médecin soit conventionné. Vous avez une lutte Dans les années 50 et 60, la convention ne sera nationale qu'en 71. Vous avez une lutte pour faire en sorte à ce que les médecins acceptent le tarif négocié par les caisses de sécurité sociale et leurs représentants. Les médecins ne veulent pas. Hein ? Vous avez des tas de départements, vous avez des conventions qui, à l'époque, sont négociées au niveau départemental, mais les médecins ne veulent pas accepter ce tarif. Je dis ça parce qu'en ce moment, vous avez peut-être entendu parler de ces questions, de ces débats sur faut-il augmenter le prix de la consultation ? Est-ce que les médecins sont bien ou mal payés ? Mais vous vous rendez compte, ils sont méritants, ils ont fait 10 ans d'études. Hein ? Les médecins n'ont jamais voulu de la sécurité sociale. Ils ont fini par accepter pour une raison simple. C'est que la sécurité sociale, elle vous garantit à vous, et à nous, en fait, en règle générale, les moyens de se soigner. Elle solvabilise la demande, comme disent les économistes. Alors, ça veut dire que si elle solvabilise la demande chez nous, nous, on demande des soins. Les médecins, ils l'offrent. Donc, on solvabilise l'offre de soins. On garantit des revenus aux médecins. Aujourd'hui, un médecin, si vous lui enlevez la sécurité sociale, il gagne plus grand-chose. Alors, sauf les spécialistes qui font des dépassements d'honoraires. Bon. Donc, l'enjeu, il est central. Mais on reste dans un mode d'organisation de la convention. On passe une convention, une forme de pseudo-contrat, et si vous êtes d'accord, alors on respecte les prix. C'est une vraie épine dans le pied. On n'a pas réussi à s'en débarrasser au moment de la création de la sécurité sociale. Là où d'autres régimes de sécurité sociale ont réussi à apporter une autre façon d'organiser la production de soins, c'est le salariat de la médecine libérale, de la médecine, avec notamment les centres de santé. Et ce que je veux dire par là, c'est que la sécurité sociale, elle est allée très loin. Elle a permis de modifier le rapport capital-travail, de donner le pouvoir aux travailleurs et aux travailleuses sur ces enjeux financiers-là, d'organiser la production des soins et d'assurer qu'on ait les moyens de se soigner, voire même d'organiser concrètement, à cet endroit-là, il faut un centre, il faut telle offre, etc. Mais on n'a pas pu aller jusqu'au bout, hein, parce que la médecine libérale et l'État derrière n'ont pas voulu. C'est vraiment, et donc c'est un enjeu de lutte et de rapport de force encore aujourd'hui. Alors, dernier point, parce que là c'est dressé très très rapidement, la sécurité sociale, c'est pas que la maladie, hein, l'assurance maladie, et vous avez donc trois autres branches un peu importantes. Je voulais en dire un mot pour conclure, puisqu'on parle finalement de quels besoins doivent être couverts par la sécurité sociale. Vous avez la famille, hein, famille, petite enfance, donc c'est les CAF. Alors ça, là encore, hein, à une époque, les CAF, elles géraient directement des crèches. On appelait la gestion directe. Ça évitait de passer par le marché, d'avoir des travailleurs et des travailleuses, surtout là encore précaires, comme on dit, enfin mal payés. Hein, voilà. Vous avez bien sûr la retraite, qui a fait l'objet d'attaques récurrentes, particulièrement ces derniers temps, ce qui paraît, ils veulent encore en faire une là bientôt. Cette idée que on va garantir quand même un salaire, si je reprends une certaine terminologie, un revenu, diront d'autres, aux travailleurs qui ont été en activité. Hein, et qui le sont toujours, en fait, quand on y regarde de plus près. Et donc, c'est vraiment un point essentiel. Et tout ça pour dire, après, on pourrait parler des accidents du travail, des maladies professionnelles. Mais tout ceci forme un tout. La santé, et j'en terminerai là, parce que ça permettra de parler ensuite d'alimentation assez facilement, je pense, même de culture à bien des égards. La santé, ce n'est pas uniquement une définition médicale. Hein. Ça, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui le dit depuis 1947-1949 de mémoire. Puis tout le monde s'en fiche, mais ce n'est pas grave, c'est quand même la norme. Hein, ce n'est pas seulement l'absence d'infirmité ou le fait de ne pas être malade. Hein. C'est un état complet de bien-être physique, moral, et à chaque fois j'oublie le dernier. Voilà, toutes ces dimensions-là. Donc ça va très très loin. Et on peut finalement se demander, mais pourquoi toutes ces dimensions-là, en grande partie couvertes par la sécurité sociale ou ce qui s'en rapproche, hein, je n'ai pas parlé de l'assurance chômage, etc., pourquoi finalement elles ne sont pas couvertes par une forme de sécurité sociale, puisqu'on a eu la preuve par A plus B que ça a fonctionné concrètement et que ce sont des choix politiques qui ont fait que ça ne fonctionne plus et qu'aujourd'hui, on tend à la faire complètement disparaître.
Merci beaucoup, Victor. Franchement, c'était passionnant. Je trouve que ça donne une épaisseur politique et Ouais, bravo d'avoir réussi à résumer ça. Et ouais, une épaisseur politique de lutte à quelque chose qui peut paraître juste un truc administratif chiant. Et voilà, enfin, de remettre un peu cette histoire qu'on, enfin, moi, que je connaissais pas avant d'avoir découvert le travail de Nicolas Da Silva. On va passer aux mutuelles autogérées qui, je trouve, font une transition intéressante dans justement la démarche de se reprendre le pouvoir dans la socialisation qu'on a progressivement perdu, comme tu l'as raconté. Et du coup, de voir comment, à petite échelle, on peut re-questionner ce que c'est que la valeur et reprendre du pouvoir sur ces questions-là.
Alors, du coup, moi, je vais vous parler un peu plus, on va dire, plus strictement d'une expérience de mutuelle autogérée qui a eu lieu à Paris, Paris-Banlieue. D'un groupe de gentes, on va dire, on était plus d'une dizaine, pas très loin de 20 personnes, issues principalement du champ de l'art. Donc là, c'est aussi une spécificité de cette mutuelle-là, du coup, qui était assez corporatiste, même s'il y avait une diversité de et statuts, régimes et non-travailleurs aussi, chômeureuses, RSistes à l'intérieur, mais qui gravitaient plus ou moins autour du champ de l'art. D'abord sur la question de la mutualisation, bon bah effectivement ça s'inscrit depuis un temps assez long et nous plus concrètement sur on va dire la pratique militante de la mutuelle, de nombreuses mutuelles qui existent en France ont pris pour appui notamment une brochure qui a été éditée qui est libre d'accès de 2011 d'une mutuelle de Lyon qui s'est organisée, qui n'était pas du tout dans le champ de l'art, mais c'était une manière en fait de questionner et nos rapports à l'argent et notre manière de se soutenir, s'entraider quand justement le système faillit à des endroits, et donc de créer des espèces de systèmes informels pour se donner du soutien, donc principalement financier, mais qui pouvait aller aussi au-delà. Pour revenir un peu plus spécifiquement sur le groupe dont je parle. Le groupe était quand même constitué, on va dire, d'une majorité de gens issus de la classe moyenne, mais il y avait quelques personnes issues de la classe populaire et aussi des personnes issues de la classe bourgeoise. Et du coup, on est venus tous à un moment donné, au moment du confinement en 2020, où nombreuses d'entre nous n'avaient plus forcément de revenus, de se dire, bon, bah, en fait, comment on fait pour payer nos loyers? Et donc, du coup, c'est un peu organisé aussi dans, on va dire, le sillage d'art en grève et... des questions sur le travail, sur notre rapport au travail, sur notre rapport à l'argent, à l'économie, à la manière dont on est socialisé avec l'argent, de se dire, bon, bah, en fait, on peut pas attendre qu'une aide de l'État tombe, parce qu'elle tombera sans doute pas, ou elle sera tellement minime que ça servira pas à grand chose. Donc, du coup, comment on peut, entre plusieurs personnes qui restaient tout de même précaires, essayer de s'organiser, de créer de la solidarité entre nous? Donc, on a commencé à réfléchir à nos rapports à l'argent. Et une des choses qui est assez particulière dans cette mutuelle-là, c'est qu'on a croisé donc deux aspects, un aspect plutôt réflexif, analytique, à partir de nos propres situations, nos expériences par rapport à notre rapport à l'argent, et en même temps un aspect très concret de comment on se sort de la merde. Et du coup, on cotise, on se réunit, ça ne passe que par du cash. Donc chaque mois, on se réunissait. Et on faisait un peu un tour pour savoir quelles étaient les situations de chacun en fonction des rentrées d'argent ou pas. Et en fonction des besoins qui étaient exprimés lors de ces réunions, on cotisait ou on demandait de l'argent. Donc c'était un peu ces choses-là, sachant que dans le système des mutuelles qui existent aujourd'hui, elles sont nombreuses en France et je vous invite pour ça à... Il y a eu une intermutuelle qui s'est tenue en avril 2023 à Paris et qui brassait plus d'une cinquantaine de mutuelles qui existent sur le territoire et qui ont des fonctionnements complètement différents les uns des autres et qui avaient aussi des manières de traiter justement de ces questions seulement par exemple dans l'aspect concret de la chose, à savoir se donner de l'argent et où questionner nos rapports à l'argent par des discussions plus longues, par des ateliers, etc. Du coup, l'enjeu, c'est un peu aussi de se poser la question de comment on désindividualise le rapport à l'argent, comment on rend compte un peu de comment on grandit avec l'argent, qu'est-ce que ça induit affectivement et intimement, parce que ça reste quand même un tabou très fort dans nos sociétés. On arrive souvent, on a du mal à en parler, on a du mal à parler de nos revenus dans le champ de l'art aussi, c'est le cas dans beaucoup de champs, dans le travail en général, quoi. Et du coup, c'est comment on arrive à essayer de formuler ça pour prendre conscience collectivement que, bah, en fait, on est à plein d'endroits dans des situations qui peuvent être comparables et parfois aussi ne pas l'être. Et là, en l'occurrence, la mutuelle dans laquelle on était se basait seulement sur le revenu. Donc ça, c'est une forme de limite qu'on peut voir, mais qui répondait à une urgence assez directe. Mais la limite, c'est aussi de ne pas questionner la question du patrimoine et des économies. Et de, en fait, comment se constituent les économies. Et si on y réfléchit un petit peu, bah voilà, par exemple, on peut prendre des cas un peu extrêmes, mais on peut avoir un héritage ou de la famille, du patrimoine immobilier. Tout ça, quand bien même on est militant, on est gaucho, etc., souvent c'est invisibilisé. Et du coup, c'est aussi une manière de remettre sur le tapis ces questions-là, des conflits de classe qui existent dans ces espaces, et de comment aussi on va politiser, et ça c'était une mutuelle bretonne qui soulevait ça, et de se dire, est-ce que ça pourrait pas être un enjeu d'aider dans la mutualisation, la constitution d'économies pour des personnes qui n'en ont pas ou qui ne peuvent pas y avoir accès. Donc ça, c'était un peu des questions qui étaient brassées. Et je pense à l'issue, donc là cette mutuelle s'est terminée et j'espère qu'elle va essaimer et qu'il y en aura d'autres qui continueront d'exister. Je pense peut-être que à partir de cette expérience, moi j'ai la sensation que faire une mutuelle spécifique des gens qui sont issus du champ de l'art a été limitant à des endroits. Parce que je pense qu'en fait, c'est plus intéressant de penser justement à la transversalité du travail et de aussi pouvoir faire rentrer. Et je pense aussi parce que le champ dans lequel j'étais est un espace très précaire, mais de se dire, OK, comment on peut embrasser une diversité de statuts, de régimes qui puissent aussi permettre la pérennité de ces endroits-là. Parce que si c'est que des précaires qui cotisent pour des précaires, ben, en fait, on est en galère, quoi. Et au bout d'un moment, il n'y a pas de thunes, quoi. Donc, comment on fait aussi pour trouver l'argent ailleurs, élargir peut-être les cercles, faire des demandes plus ponctuelles à des gens qui n'auraient pas forcément droit de regard sur le fonctionnement de la mutuelle, mais qui feraient des dons. Enfin voilà, il y a plein de questions comme ça qui se posent. Et peut-être... j'avais un truc à dire, mais il m'a échappé. Et oui, et du coup, pour moi, c'est intéressant aussi d'envisager... la partie concrète des échanges monétaires, des échanges d'argent, à distinguer avec les espaces réflexifs autour du rapport à l'argent. Parce que déjà, mélanger les deux, ça suppose une forme d'intimité, une forme d'affinité forte. Et en fait, il y a de la confiance qui se lie. Et donc, il y a des enjeux interpersonnels qui interviennent. Alors que si on imagine séparer les deux, ça veut dire qu'on ne vous oblige pas à faire partie d'une mutuelle, mais pour autant, on peut envisager de discuter ensemble de comment voilà, on est socialisé à l'argent, de comment on envisage le partage des richesses, de comment on peut redistribuer des bouts de caisse à telle ou telle caisse, telle ou telle mutuelle. Et j'ai l'impression que ça permet aussi de commencer un discours un tout petit peu plus critique aussi dans nos milieux et les milieux de gauche, pour désacraliser aussi le truc de la précarité qui pour certaines est une précarité qu'on pourrait appeler choisie, quoi, et pour d'autres qui est une précarité qui est beaucoup plus subie. Et donc j'ai l'impression que distinguer ces deux espaces-là peut être aussi salvateur pour continuer à faire de l'argent en fait une thématique et de la redistribution une thématique hyper importante et voilà à faire essaimer, quoi. Et je vais m'arrêter là, je crois.
Alors moi je vais faire une petite intervention qui va dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, un peu plus courte. En tout cas, suite à l'expérience de dans cette mutuelle-là autogérée, avec d'autres, il y a eu l'idée de... Donc ça va un peu à contrario de ce que tu viens de dire, même si je suis d'accord avec toi. Mais il y a eu une envie un peu collective pour des personnes intermittentes ou ayant le désir de devenir intermittent, étant en voie de s'affilier au régime de l'intermittence, de créer une mutuelle pour intermittents. Donc c'est de ça dont je vais vous parler tout de suite. Et du coup, cette mutuelle-là, le principe, c'est toujours dans un truc de cotisation mensuelle en cash, de se retrouver une fois par mois pour échanger de l'argent pour celles qui peuvent, ou demander de l'argent, mais en fait, c'est plutôt de comment prendre de l'argent qu'on cotiserait et de le transformer en heures. Donc bon, ça passe à la radio, c'est pas très légal ce que je suis en train de raconter, mais on protégera mon identité. Du coup, pourquoi on a eu envie de faire ça? Pour plusieurs raisons, et aussi dans le prolongement de ce qui a été dit ce matin sur le fait que le milieu du spectacle vivant, ou en tout cas il y a un peu ces intermittents, intermittentes là, le milieu du spectacle vivant étant très apolitique, ça a été en fait un prétexte quelque part pour politiser des personnes qui pouvaient avoir des affinités avec des milieux de gauche, mais concrètement il se passait pas grand chose. Donc du coup la mutuelle, elle vient un peu répondre de différentes manières à une politisation. Donc ça venait aussi du constat qu'il est de plus en plus difficile en fait aujourd'hui de faire ces 507 heures, et que en fait la pratique du bidouillage administratif pour faire les 507 heures est une pratique hyper courante dans les boîtes de production, avec les administrateurs, etc. Et que donc, plutôt que de le faire de manière isolée, l'idée là, c'est de se retrouver et que collectivement, en fait, ce bidouillage puisse profiter au plus grand nombre. Mais c'était aussi ça reste aussi pour nous un prétexte pour se retrouver, pour mutualiser de l'argent et faire un peu des heures, mais aussi plus largement pour questionner en fait notre rapport au travail, s'intéresser à ce qui se passe chez les artistes auteuristes, notamment les camarades qui font de la performance, qui n'ont pas encore accès à l'intermittence mais qui pourraient y avoir accès. Donc c'est un peu de réfléchir à ça collectivement aussi. Et puis je sais pas si j'avais autre chose à rajouter. Enfin, en tout cas, on est vraiment dans une démarche très expérimentale pour le moment, par rapport à la mise en place de cette mutuelle qui pose des questions et des limites administratives à des endroits. Et aussi, il faut trouver en fait les structures associatives qui acceptent qu'on bidouille comme ça de manière un peu plus organisée. Mais il y en a. C'était aussi pour ajouter une touche entre guillemets un peu plus réjouissante dans cette période un peu de somme individuelle et collective, de se dire ah mais il y a aussi des endroits où, enfin moi j'ai eu la sensation que ça nous permet. Et pour rejoindre ce que tu viens de dire sur l'idée, faut pas qu'on soit tous précaires à avoir nos 507 heures ric-rac, etc. C'est comment aller chercher aussi des artistes ou des techniciens qui gagnent très bien leur vie aujourd'hui avec le régime de l'intermittence, et en fait de les entraîner là-dedans pour aussi réfléchir à la manière dont comment on travaille aujourd'hui, le réflexe qu'on peut avoir de toujours accepter du boulot, et en fait de se dire bah peut-être que là avec cette mutuelle tu peux refuser aussi du travail. Possiblement, et comment tu peux dégager ce temps-là pour du travail militant, des trucs, ce qu'on a dit ce matin. Donc, peut-être je vais m'arrêter là, et puis.
Merci beaucoup pour vos témoignages. On va passer à Élodie, qui semble être parfaite pour sortir du seum, parce que là, on est vraiment dans quelque chose qui est primordial, qui est travaillé depuis très longtemps, qui a pris peut-être un gros coup de projet, un coup de projet nécessaire à cause de la crise sanitaire et tous les problèmes que ça a engendré. Et pour le coup, ça avance hyper bien. Il y a des expérimentations dont tu vas nous parler. Ça avance à fond et c'est hyper enthousiasmant. Donc, je t'en prie.
Allez. Merci, bonjour. Oui, moi, je vais vous parler plus précisément d'une expérimentation que je suis, que je documente depuis 2021 dans le Luberon, pas loin d'ici, là, à une heure environ. Donc une expérimentation qui tend vers une sécurité sociale de l'alimentation. Donc il y en a de plus en plus aujourd'hui en France qui voient le jour avec un cadre différent. Enfin voilà, on n'est pas tous sur une même méthodologie, une même manière de faire. Et justement, l'intérêt, c'est de mettre en commun et de voir ce qui fonctionne pas. Et donc pour ça, il y a certaines expérimentations qui sont suivies par des chercheurs qui font le même travail que moi, et d'autres où c'est les personnes expérimentateurs, tristes, qui font ce travail-là. Et donc on se regroupe au sein d'un collectif donc qui s'appelait avant le collectif national, qui a émergé en 2019 par une dizaine d'organisations, dont Réseau Salariat. Et donc il y en a ici qui pourraient parler un petit peu de ces discussions au sein de Réseau Salariat pour mettre en place une sécurité sociale de l'alimentation. Parce que moi, je ne vais pas trop rentrer dans le détail de ce qu'on entend derrière ça. Enfin, même si je peux vous dire qu'il y a trois piliers centraux, hein, l'universalité, le conventionnement organisé démocratiquement et le financement basé sur la cotisation sociale. Et là-dedans aussi, dans ce troisième pilier, il y a différentes manières de le voir. Moi, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Je vais parler plus en termes d'expérience de ce qui se passe là dans le Luberon. Donc voilà, toutes ces expérimentations qui naissent un peu partout, on se rassemble dans ce collectif général. Et alors l'expérimentation qui est née dans le Luberon, elle a démarré en 2021 par l'initiative d'une association qui s'appelle Omaki, une association d'éducation populaire sur les thématiques de l'alimentation, la paysannerie, l'environnement. Et donc ils ont eu envie de mettre en place sur leur territoire une expérimentation qui tendrait vers une sécurité sociale de l'alimentation. Pour ça, ils ont réuni autour d'eux, par leur réseau, différents acteurs, actrices, pour réfléchir à comment mettre en place cette expérimentation. Donc, une sorte de comité de pilotage, ça a duré pendant un an. Donc moi, j'ai assisté à ces réunions-là. Donc il y en a dans la salle qui peuvent témoigner aussi, qui ont fait partie de ce copil. Et donc, moi, j'avais pour but, en fait, d'observer et analyser ce processus en train de se faire et d'en tirer des enseignements pratiques et théoriques. Et ce comité de pilotage, donc, lui, pendant un an, il a rassemblé donc des personnes, une vingtaine de personnes issues d'associations, d'institutions. Il y avait des élus, des chercheurs, des paysans, des acteurs de l'aide alimentaire. Enfin, voilà, il y avait différents... différentes casquettes, mais tous en lien avec quand même l'alimentation. Et eux, ils avaient pour but, en fait, de définir un cadre d'expérimentation. Voilà. Comment on veut que cette expérimentation, elle soit mise en place sur le territoire. Et donc, pour ça, ils se sont formés, parce qu'en fait, il n'y en avait pas beaucoup qui savaient ce que c'était que la SSA. Donc, ils ont fait venir plusieurs personnes qui leur ont parlé des chercheurs, ou pas que des chercheurs, qui ont parlé de ce que c'est que la démocratie alimentaire, la situation de l'aide alimentaire aujourd'hui en France. Un chercheur qui a, lui, documenté la Convention citoyenne sur le climat, parce que, en fait, cette expérimentation, elle peut être vue comme une convention citoyenne, vu que l'idée, c'est de rassembler des habitants d'un territoire pour réfléchir à quelle alimentation ils aimeraient avoir et à quel acteur, actrice de la chaîne de l'alimentation ils veulent conventionner. Donc voilà, ils se sont un peu formés sur toutes ces questions-là pour, en fin de compte, arriver à la fin de l'année à se dire « Ok, on aimerait mettre en place deux conseils locaux de l'alimentation pour que, à terme, on naisse des caisses communes de l'alimentation gérées démocratiquement par des habitants d'un territoire ». Et donc, ça a été décidé que ce soit fait à Cadenet, dans un village de 4500 habitants, un village rural, et à Pertuis, donc qui maintenant fait partie de la métropole marseillaise, où il y a, je dirais, 20 000 habitants, ou je ne sais pas vraiment, mais quelque chose comme ça. Enfin, voilà, on n'est plus sur la même échelle, quoi. Donc, l'expérimentation à Pertuis, elle est dans les clous, elle va démarrer via aussi un partenariat avec le Secours catholique. Je ne vais pas vous parler de cette expérimentation parce que justement elle n'est pas encore vraiment sortie de terre. Voilà, moi je vous parle de Cadenet, donc ça fait maintenant deux ans et demi que des habitants de ce territoire ont été donc recrutés par ce comité de pilotage pour réfléchir à un système alimentaire rêvé dans lequel en fait il pourrait conventionner des acteurs du système alimentaire et des actrices. Dans le système alimentaire, on parle donc des producteurs, productrices, transformateurs, RIS et distributeurs, RIS. Voilà, du début de la chaîne jusqu'à la fin. Ce qui a été décidé par le comité de pilotage, c'est que pour eux, ça avait été essentiel en fait de passer par une petite phase d'apprentissage en commun pour savoir de quoi on parlait, quels sont les enjeux autour de l'alimentation et de la sécurité sociale, de la socialisation de l'alimentation, enfin de des revenus, pour, enfin des pas des revenus mais des ressources. Merci Camille. Pour en faire bénéficier les acteurs RIS de la chaîne, mais aussi les mangeurs et mangeuses qui sont quand même à l'autre bout de la chaîne. Il y a une trentaine de personnes qui ont suivi cette première phase qu'on a appelée apprentissage en commun pour se former à ces questions-là. Je vais pas m'étendre sur le profil de ces personnes-là, mais si vous avez des questions à la suite, on pourrait y revenir. En tous les cas, c'était assez représentatif des habitants de Cadenet. Pour le coup, ça manquait aussi quand même d'hétérogénéité dans ce groupe. C'est ce qui en est ressorti. À chaque fois, il y a eu 3 cycles. Ça a duré 4 mois, cette phase d'apprentissage en commun. Un premier cycle sur le système alimentaire, un deuxième sur l'histoire de la sécurité sociale et un troisième cycle sur la démocratie alimentaire et la démocratie participative. Chacun des cycles était découpé en 3 séances. Donc il y avait un apport de connaissances qui était amené par un spécialiste de la question. Ensuite, ils se revoyaient 15 jours après. Et c'était une mise en débat de ce qui avait été retenu ou mis en critique la fois d'avant, notamment par de l'apport de controverses. C'est arrivé qu'il y ait des jeux de rôle qui soient joués pour amener un esprit de contradiction ou en tout cas se jouer l'avocat du diable pour faire réagir les participants pour que 2 semaines après ils se revoient et que là il y a un atelier de groupe pour qu'il y ait une création commune qui ressorte de là sur le sujet en question. Voilà, des ateliers d'intelligence collective quoi. Donc qu'est-ce qui est ressorti de cette première phase là qui a duré 4 mois concernant le processus d'apprentissage en commun? Premièrement, la construction intellectuelle commune, elle a uni le groupe dans une pensée collective. Pour la plupart, personne ne savait vraiment de quoi il s'agissait quand on parlait de sécurité sociale de l'alimentation. Et à la fin de ces 4 mois-là, le groupe, sans dire qu'il pensait de la même manière, c'est pas ça, mais n'empêche qu'il y avait une pensée commune autour de ces questions-là. Deuxièmement, le fait de dire que le débat a été un outil d'autoconstruction de sa pensée, ça c'est ce qui est ressorti beaucoup. Troisièmement, ça c'est pas nouveau, mais quand même c'est ressorti beaucoup dans les entretiens et donc c'est quand même important de le rappeler que le travail de groupe a été un outil d'émulation et d'approfondissement de ses idées. Que malgré tout cette première phase, elle a quand même été jugée assez conceptuelle. Parce qu'on est quand même resté beaucoup sur le monde des idées et de la théorie. Et puis un cinquième point, c'est que ce temps long là de 4 mois pour s'auto-former, il a été nécessaire pour appréhender et comprendre l'ensemble des questionnements qui sont liés à la SSA et qu'il ne faut pas faire l'impasse du temps en fait que ça prend. Et vraiment, ça a été beaucoup mis en avant que. Ok, il y a des financements qui sont mis derrière tout ça pour que l'expérimentation voit le jour, pour que moi je puisse mener cette recherche-action. Mais en fait, rentrer dans une logique de projet, ça marchera pas parce que en fait, on fait de la démocratie. Enfin, les participants en pente font de la démocratie pour arriver à construire une caisse et que du coup, ça peut pas rentrer dans une logique de projet. Et enfin, concernant le processus d'expérimentation en tant que tel, ce qui en est ressorti de cette première phase-là, c'est que, en fait, faire de ce projet une expérience de la démocratie, c'est ce qui a suscité avant toute chose l'adhésion des participants à ce projet, avant même que ce soit en fait lié à la question alimentaire. Pas tous n'avaient une expérience associative ou militante. Et ce qui a beaucoup séduit les participants à faire partie de cette expérience, c'était justement le volet démocratique qui leur manquait crucialement aujourd'hui dans leur vie. Et puis aussi, oui, que cette cohésion de groupe a favorisé l'investissement dans l'expérimentation. Si on en a perdu en route, eh ben, en fait, y a quand même un noyau dur qui est resté pour la suite de l'expérimentation. Et ça, c'est la cohésion de groupe aussi qui a permis ça. Et comme je vous le disais, voilà, le groupe aussi en ressort à la fin de ces 4 mois avec quand même cette inquiétude de l'hétérogénéité du groupe pour pouvoir tendre à construire des critères partagés par l'ensemble de la population. J'ai encore du temps ? Super. Donc du coup, là, je passe à la nouvelle phase là, qui a démarré à l'automne dernier et qui est en train de s'achever, on va dire, avant le lancement de la caisse commune de l'alimentation. Moi aussi, j'ai à nouveau assisté à toutes ces réunions et fait des entretiens avec les participants et Pente. Là, il n'y a pas encore d'écrit dessus, mais ça va arriver en début d'année 2024. En tout cas, moi, ce qui en est ressorti des observations que j'ai pu faire et de suite aux différents entretiens, c'est que... là j'ai mis la charrue avant les bœufs. Quand même, je vais vous parler des étapes par lesquelles ils sont passés pour arriver à construire cette caisse, plutôt que d'avoir les enseignements à en tirer. Le groupe s'est redéfini, il s'est autodéterminé CLAC, collectif et non plus conseil local, collectif local de l'alimentation de Cadenet. Et ils ont écrit un manifeste pour du coup s'auto-définir, qui leur a servi à la fois à eux pour voir quelle vision commune ils avaient du groupe, vers quoi ils veulent aller, et pour bien être sûr qu'ils s'entendent sur les mêmes choses, sur la même vision qu'ils ont envie d'avoir et sur quoi ils veulent continuer. Mais aussi pour pouvoir ouvrir le groupe, justement ce manque d'hétérogénéité, c'est cette envie de recruter plus large, et donc il faut bien se faire connaître et avoir une identité, une définition de qui on est. Voilà, et puis donc se créer en tant que CLAC, ça aussi, ça a permis de se créer en association, parce qu'il fallait pouvoir réceptionner, on va dire, les 60 000 euros de la Fondation de France, qui allait permettre de mettre en place l'expérimentation avec le financement d'une carte de sécurité sociale de l'alimentation que vont pouvoir utiliser donc 33 expérimentateurs trices de Cadenet auprès des acteurs actrices de la chaîne du système alimentaire qu'ils ont décidé de conventionner. Donc toute cette année, elle a servi à ça, là, à réfléchir à quels critères de conventionnement, quel cadre de conventionnement. Pour partir là-dessus, pour réfléchir à ça, ils sont partis sur quelle fresque de l'alimentation rêvée on veut pour 2052 à Cadenet, pour voir donc quelle vision commune ils en ont. Et donc ça, c'est aussi la phase d'apprentissage en commun qui a permis d'avoir des bases communes pour réfléchir à ça. Et de là, on est ressorti, on va dire, 5 gros critères transversaux auxquels, en fait, ils se sont dit que pour mettre en place un conventionnement, il fallait que ces critères répondent, que les acteurs et actrices de la chaîne de l'alimentation répondent à ces critères-là. Donc l'indépendance vis-à-vis de l'agro-industrie, la taille et l'échelle de production, de transformation, de distribution, le respect du vivant, donc de l'animal comme de l'humain, donc là on parle aussi des conditions de travail, même si ils ont bien conscience que derrière un produit, c'est compliqué de connaître vraiment les conditions de travail qu'il y a derrière. L'impact sur l'environnement et l'impact sur la santé. Voilà, c'est des critères transversaux qui vont permettre de conventionner des produits et des acteurs actrices. Voilà. Et donc, dans le même système de conventionnement qu'on connaît avec la Sécu, ils se sont dit que ce serait intéressant de faire un système d'échelons Et comme donc on rembourse des, on conventionne des acteurs et des actrices et aussi des médicaments, là on rembourserait aussi des produits et on conventionnerait des produits et on conventionnerait des acteurs, actrices de la chaîne. Et donc ce système d'échelon, en fait, ce serait pour encourager un cercle vertueux et permettre en fait au maximum des acteurs, actrices du système alimentaire de pouvoir rentrer dans ce conventionnement. Donc si sa pratique permet de cocher, on va dire, ces 5 critères transversaux le mieux possible, la personne ou le produit serait conventionné à 100%. Donc il y aurait 3 cœurs sur le produit en termes d'étiquetage. Ce serait difficile de faire mieux, quoi. Donc par exemple, un paysan boulanger qui produit ses céréales, qui a une pratique biologique et qui vend directement son pain, voilà. Là, ben, ça rentrerait plus ou moins dans les 5 critères transversaux. Ce serait, par exemple, ça, un conventionnement à 100%. Ensuite, il y aurait le système à 2 cœurs, donc ce serait un conventionnement plutôt à 70%. Donc ça veut dire qu'il y aura encore une marge de progression pour atteindre les 100%. Et enfin, le système à 1 cœur, où là, on serait plutôt sur du conventionnement à 30%, c'est que la marge de progression serait encore plus grande à avoir. Mais donc voilà, ça permettrait justement en fait de permettre à, si on veut que en tant que producteur ou transformateur ou distributeur, et bon, je mets tout ça au féminin, que ça permette en fait de, que on ait envie que son produit soit conventionné parce qu'on veut que les mangeurs et les mangeuses y viennent acheter chez la personne, et ben que en fait que je fasse en sorte d'améliorer mes pratiques pour que mon produit, lui, il soit plutôt dans du 100% que dans du 30%. Enfin, voilà, c'est un peu le système que le groupe a pensé. Et pour mettre en application ce système-là, donc il y a 3 lieux qui ont été choisis à Cadenet, qui sont conventionnés. Donc, un magasin de producteurs et de productrices. Donc là, il n'y aura pas l'ensemble des produits qui seront conventionnés dans le magasin, seulement une partie. Et ce travail de système de 1 cœur, 2 cœurs, 3 cœurs, il est en train d'être fait. Une AMAP, et puis l'épicerie du village, où là, en fait, il y aura peu de produits conventionnés. En tous les cas, il y en aura beaucoup qui seront plus conventionnés à 30 qu'à 100. Parce que bah, la plupart de ces produits ne rentrent pas dans ces 5 critères transversaux. Mais l'intérêt du groupe de faire rentrer cette épicerie dans le système de conventionnement, c'est parce qu'elle touche justement des habitants du centre-ville qui ne peuvent pas se déplacer, des personnes en précarité. Et donc c'était aussi voilà, un intérêt pour le groupe de ne pas mettre de côté en fait, ce principe-là, quoi, vu qu'il y a quand même cette idée... Même si c'est une universalité, il y a aussi quand même l'idée de, ben, par rapport aux personnes qui sont dans la précarité alimentaire, qu'elles permettent, elles aussi, d'avoir une meilleure alimentation et de ne pas être tributaires de l'aide alimentaire. Bon, voilà un peu le système là, qui est en train d'être pensé et qui est pas encore, qui va être à l'essai là, à partir de 2024, donc je vous en dirai plus plus tard. Donc aujourd'hui, le groupe, il en est à se dire que donc pour avoir ces 150€ par mois pour ces 33 expérimentateurs pendant un an, si on veut que cette caisse elle puisse aller au-delà, réfléchir à un système de cotisation aussi peut-être par les participants, mais aussi des sympathisants, pour aller dans une idée de caisse d'investissement comme du coup la Sécu a permis de construire les CHU, et ben là pourquoi pas un investissement qui permette à des producteurs tristes une année qui ont une mauvaise récolte de pouvoir les aider là-dessus ou peu importe, enfin des acteurs risques de la chaîne qui auraient une difficulté, et ben que cette caisse puisse lui permettre de combler un déficit. Et donc là, il va y avoir un gros enjeu aussi pour les membres du CLAC de transmission des apprentissages pour les nouveaux qui vont être tirés au sort, parce que donc le CLAC pour le moment ça représentait une 20aine de personnes, donc il va y avoir il y a eu des personnes qui ont été tirées au sort parmi les habitants de Cadenet pour participer à l'expérimentation. Et donc, pour ne pas être un simple usager de la carte et ne plus savoir en fait à quoi ça sert cette carte et avoir l'historique, comme nous aujourd'hui, une carte vitale, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière. Ben, l'intérêt, c'est de ne pas retomber là-dedans et donc, du coup, d'être conscientisé que cette carte de l'alimentation, qu'est-ce que ça veut dire quand je l'utilise? Et donc, il y a tout un travail d'éducation populaire et de transmission de la connaissance à mettre en place. Voilà. Et puis après, ben, moi, toute cette année qui va venir, je vais observer le mode de gouvernance qui est mis en place dans cette caisse parce que quand même, mon axe de la recherche, c'est le côté démocratique, en fait. Vu qu'on ne peut pas observer pour le moment l'universalité, tant que ce n'est pas appliqué sur le territoire national, et que la cotisation, c'est pareil, ce n'est pas quelque chose qui peut être encore observé. Donc nous, on s'attache à observer et à analyser la partie démocratique du groupe et comment ça se met en place. Voilà. Je crois que je suis bien ou je suis... 5 minutes. Encore 5 minutes, ok. Donc nous, nos hypothèses de recherche. On s'est dit que grâce à cette appropriation en commun des connaissances et des enjeux liés à la sécurité sociale de l'alimentation, les membres du CLAC ils pourraient être à même de transmettre donc, ces connaissances et ces enjeux à leur tour. Donc aux nouveaux membres du CLAC, mais aussi plus large, que les expérimentateurs tristes deviendraient des porteurs acteurs de la carte et non pas que des usagers et bénéficiaires. Bon, donc ça, c'est un peu ce que je vous ai dit jusque-là. Que de mettre à l'ouvrage la démocratie participative dès le démarrage de l'expérimentation, comme il a été fait là avec cette phase de transmission des connaissances et d'élaboration d'un cadre d'expérimentation et de conventionnement, eh ben ça permettrait en fait une gestion démocratique de la caisse, une réelle démocratie alimentaire grâce aux prises de décisions collectives et une gouvernance alimentaire locale. Voilà. Et puis que ce dispositif de protection sociale de l'alimentation élaboré par le CLAC, la CLAC, il serait bénéfique pour l'ensemble du système alimentaire en termes de protection sociale pour les usagers de la carte et usagères, puisqu'il est co-construit par eux et elles, que ce serait un apport financier pour les acteurs RIS conventionnés du territoire, que ça permettrait d'améliorer les pratiques des acteurs RIS conventionnés ou non, parce qu'on espère que ça fasse tache d'huile, et que ça permettrait de diminuer les impacts négatifs sur l'environnement liés au changement de pratiques. Ça, c'est à long terme, dans des années et des années. Voilà.
On va passer à notre dernière présentation avec la sécurité sociale de la culture. Étant donné qu'on est plutôt des groupes militants agissant dans le secteur des arts visuels, la culture, même si les autres nous concernent évidemment au plus haut point, on voulait finir quand même par la culture pour changer aussi les échelles. La santé, ça concerne tout le pays, les mutuelles autogérées, c'est une échelle beaucoup plus restreinte. L'alimentation, ça a bien avancé. La culture, j'espère que vous en serez bientôt à des expérimentations aussi. On t'écoute, Rémi.
Merci, on finit toujours par la culture en général. Ce matin, en arrivant sur Marseille, j'ai un peu pensé et préparé mon topo. Et je me suis amusé à écrire une petite introduction. Donc, je vous rassure, je ne lirai que quelques phrases pour introduire encore une fois mon propos. Depuis trop longtemps, les artistes ne sont vus que par le prisme idéologique de la bourgeoisie. Artiste égale créateur. Un être supérieur qui ne peut s'abaisser au niveau des travailleurs. Un artiste crée, il ne travaille pas. Cette vision à laquelle nous adhérons, nous artistes et bien d'autres, à des fins de distinction sociale, nous confine dans une insécurité matérielle. Insécurité qui nous asservit toujours plus à nos maîtres. Avant-hier, valet de cour. Hier, faire valoir d'une bourgeoisie triomphante. Qu'en est-il aujourd'hui ? Derrière les nababs de la culture qui pérore dans les hautes sphères du pouvoir, il existe toute une cohorte de professionnels des arts et de la culture qui essayent de survivre dans un marché capitaliste toujours plus tendu. Leur salut adviendra-t-il en jouant le jeu de la concurrence généralisée ou par la construction politique d'une classe qui se revendique des travailleurs de la culture. Par ces quelques lignes, j'expose un tout petit peu l'enjeu de ce que nous essayons à Réseau Salariat de construire, notamment avec une sécurité sociale de la culture. Alors, avant de parler plus précisément des spécificités d'une telle sécurité sociale de la culture, j'aimerais quand même rappeler, même si je sens que certains connaissent quand même Réseau Salariat ici, les points forts, les idées, disons les grands piliers de Réseau Salariat, qui est une association d'éducation populaire, qui se base sur les travaux de Bernard Friot. Je dirais que, en premier lieu, l'idée est d'attacher à toute personne majeure vivant sur le sol français, donc un droit du sol, un salaire à la qualification personnelle, plus connu sous le nom de salaire à vie. Alors je suis obligé tout de même d'expliquer certains mots, car souvent les mots portent beaucoup de confusion. Quand nous disons salaire à la qualification personnelle, la qualification ce n'est absolument pas le diplôme, comme trop souvent nous le pensons. Le diplôme, c'est la certification. Ça certifie que nous savons faire quelque chose. C'est de l'ordre du métier. Si vous allez voir un chirurgien, il vaut mieux qu'il ait un diplôme en chirurgie. Si vous allez chez votre boucher, il vaut mieux qu'il ait un diplôme en boucherie. Donc voilà, ça c'est de l'ordre du travail concret. Et en théorie, on dit que ça produit de la valeur d'usage. Je dis ces mots qui sont très importants et vous les comprendrez plus tard quand je ferai mon exposé sur la sécurité sociale de la culture. Donc qu'est-ce que c'est que cette qualification ? La qualification, c'est un mot qui a été inventé par les communistes au début du XXe siècle. Ça exprime que vous contribuez à la production de valeurs économiques et non pas de valeurs d'usage. Valeur d'usage, c'est les biens et services que nous produisons. C'est, disons, de l'ordre de l'activité. Chaque être humain, dès qu'il est éveillé, produit de l'activité, quoi qu'il fasse. Est-ce qu'il produit de la valeur économique ? Cela, c'est le rapport social qui en décide. La lutte de classe. Imaginons un camembert d'activité. Seule une infime partie de cette activité vaut salaire. Et c'est ça la lutte de classe. Qui décide si votre activité est productive ou non ? Pour Réseau Salariat, cette question est primordiale. Bien comprendre que la valeur économique, ce n'est pas la valeur d'usage. Encore une fois, la bourgeoisie est totalement prête à nous donner des diplômes. Mais votre diplôme, s'il n'est pas validé dans la sphère de la production économique, vous pouvez toujours aller vous torcher. On est content d'avoir un diplôme, mais ce n'est pas ça qui nous fait bouffer. Ce n'est pas ça qui nous verse un salaire. Ce diplôme, il faut le valider dans la sphère marchande, marchande capitaliste. Donc ce point, premier pilier fort, une attribution à chaque majeur d'un salaire à la qualification personnel, sans condition de diplôme. Évidemment que ça ne va pas nous empêcher d'étudier, d'avoir des compétences, d'avoir des diplômes. Mais ce n'est pas une condition. Le deuxième pilier, c'est la souveraineté des travailleurs sur leur lieu de travail. Ça aussi, c'est très important. Dans le mode de production capitaliste, les travailleurs ne sont pas souverains dans leur travail. Ça veut dire qu'ils ne décident pas de ce qu'ils produisent. Ils ne décident surtout pas de leur rémunération et ils ne décident aucunement de leur hiérarchie. même dans la fonction publique, qui a fait un grand pas grâce à nos anciens communistes, c'est-à-dire qu'un fonctionnaire a une sorte de salaire à la qualification personnelle, eh bien, le fonctionnaire n'a aucune maîtrise de son travail concret. Et il ne décide en rien sur sa hiérarchie. Donc, ces deux points sont pour nous, à Réseau Salariat, essentiels pour pouvoir sortir enfin du mode de production capitaliste. Et ce chemin de la sortie du capitalisme, c'est ce que nous appelons à Réseau Salariat le communisme. Oui, mais c'est du salaire, c'est du salaire. Non, non, non. C'est un salaire communiste contre versus un salaire capitaliste. Mais oh ben, la sémantique, vous savez, ça c'est, il faut bien. La sémantique, c'est souvent la classe dominante qui la détermine. Donc le but, c'est de surtout pas montrer qu'un fonctionnaire produit de la valeur. Et ça, j'allais l'aborder dans un autre point. Mais merci de me faire une piqûre de rappel. Oui, très bien, merci beaucoup. Donc effectivement, un fonctionnaire touche un salaire. Il a un salaire à la qualification personnelle. Mais pour revenir à ce que je disais, donc voilà, il n'a pas de souveraineté. Donc ces deux piliers, attacher le salaire à la personne et que les travailleurs soient tous souverains sur leur travail, en gros qu'ils soient dans la cogestion des entreprises... Eh bien ça va nous sortir du mode de production capitaliste. Alors, on se pose une question, ça fait longtemps qu'on se la pose à Réseau Salariat, comment y arriver ? La fameuse stratégie. On est très souvent nombreux à poser les questions dans les débats. Oui, mais tout ça, c'est très bien, comment on fait ? Alors, il y a en ce moment une grande stratégie de créer... des sécurités sociales sectorielles. On en a eu un exemple à l'instant. Donc, une des plus avancées, c'est la sécurité sociale de l'alimentation, mais on pense aussi à celle du logement, à celle de la fin de vie, des transports, de la redirection écologique, qui est supportée par le groupe local, notamment de Marseille, et une sécurité sociale sectorielle de la culture. Alors, ces sécurités sociales sectorielles, elles s'appuient sur l'exemple dont Victor a parlé tout à l'heure, du régime général de la sécurité sociale. Je dis juste quelques mots, puisque je ne vais pas redire ce que a dit Victor. Le régime général... C'est de la sécurité sociale, c'est une subversion totale de la sécurité sociale capitaliste. En 1945, comme dit Bernard Friot, rien ne se crée. En 1945, la sécurité sociale, elle est pléthorique. Il y a plus de 1000 caisses de sécurité sociale, 70 000 salariés, et cette sécurité sociale capitaliste, elle est gérée sur un style, dans un domaine mutualiste, dans la mauvaise acception du mot, malheureusement, c'est-à-dire qu'elle est gérée par la bourgeoisie, le patronat et les notables, avec toute sa cohorte de paternalisme vers des gens, les classes populaires, qui ne sont pas responsables, qui ne peuvent absolument pas gérer. Donc ce grand mouvement du régime général en 1946, c'est justement une transformation extraordinaire, puisque c'est les intéressés eux-mêmes qui vont enfin gérer. Ils vont désigner. Au début, ils n'élisent même pas leur hiérarchie. Ils désignent. Ça nous paraît totalement hallucinant, ça, de ne même pas passer par le vote. On désigne, c'est-à-dire, on a confiance en toi, tu fais partie du club, tu fais partie de notre famille, de notre classe, on a confiance en toi. Si tu ne fais pas bien le boulot, on sera les premiers à dire, dégage, on te remplace. Mais on désigne. C'est très, très important de se rappeler de cela. Donc, gérés par les intéressés eux-mêmes. Conventionnement, effectivement, des lieux de soins. On va conventionner les futurs hôpitaux ou les hôpitaux existants qui sont vraiment des véritables mouroirs et aussi la clinique. Les cliniques aussi vont être conventionnées. On va conventionner, comme l'a très bien dit Victor, les libéraux de santé, donc les médecins qui sont réticents, mais qui sont aujourd'hui bien contents d'avoir une patientèle solvabilisée. Cinquième point que j'ai relevé, attribution d'un salaire à la qualification personnelle au personnel du soin. Le soin, avant les infirmiers, il est pratiqué par la religion, par les religieuses. Ce sont des femmes, et en plus, elles sont religieuses. On n'allait quand même pas les payer. Ça fait 2 siècles que ça dure. Et bien maintenant, non. On professionnalise le soin. On va dire que cette activité, ce dont je parlais tout à l'heure, cette activité, ça vaut salaire. Elles vont recevoir un salaire, et ça va être des fonctionnaires. Elles vont avoir un salaire à la qualification personnel. Il y aura aussi des libéraux dans l'acte infirmier, mais il y aura aussi des fonctionnaires. Et il va y avoir un autre point, le financement des lieux de production du soin par une subvention. En grande majorité, on n'est pas allé sur les marchés des capitaux pour construire tous ces hôpitaux et rénover toutes ces cliniques. Non, là, on a donné de la subvention. Et l'immense avantage de la subvention, c'est qu'elle ne se rembourse pas. Hein, c'est très important de comprendre cela. Tout ce mouvement ne s'est pas fait d'un claquement de doigts, même si d'énormes choses ont été créées en 6 mois, les 6 premiers mois de 1946. Effectivement, il faut lire le livre de Nicolas da Silva, qui est une somme exceptionnelle, vraiment un travail historique absolument génial. Vous lisez ce bouquin, au moins vous vous libérez de lire tous les autres. Il y a tout dans ce bouquin, donc il ne faut vraiment pas se gêner, ça ne fait que 280 pages, ce n'est pas la mer à boire. Donc, augmentation du taux de cotisation, ça c'est très important, unification des taux, ça aussi c'est très important, ça a été dit, et surtout, le vœu pieux de la CGT, c'était de créer une seule caisse contre les 1000 caisses. Malheureusement, ils vont être battus là-dessus. Il y aura 2 caisses. C'est déjà pas mal. On part de 1000, on arrive à 2. C'est déjà pas mal. Et cette gestion, effectivement, de ces 2 caisses par les intéressés eux-mêmes. Alors, j'en viens maintenant aux enjeux de la sécurité sociale, de la culture. Bien, comme vous l'avez compris, cette sécurité sociale de la culture, elle va fortement s'appuyer sur cet immense déjà-là communiste du régime général de la sécurité sociale. D'abord, on va conventionner des lieux de production de la culture. Aujourd'hui, ces lieux de production sont gérés par une oligarchie, des sachants, des directeurs de théâtre, des directeurs artistiques. Vous le mettez au féminin, et bien évidemment. Quand ce sont des scènes nationales, c'est l'État qui nomme le directeur. Ce n'est pas les travailleurs eux-mêmes. Ils n'ont pas le droit au chapitre, les travailleurs des lieux de production. Non, il y a une hiérarchie qui nous est imposée. Je ne parle même pas quand ce sont des fondations privées, ou alors là, c'est le capital qui gère tout, et on n'a pas droit à la parole. Donc il va falloir non pas faire table rase, comme malheureusement trop souvent nous l'entendons, de ces lieux de production de la bourgeoisie, qui sont effectivement l'apanage de la bourgeoisie. Non, on ne va pas les raser, parce qu'on ne fera jamais un opéra de Wagner dans la rue. D'accord ? On va les réquisitionner. Tout simplement. On va les co-gérer collectivement. On a besoin de directeurs. C'est évident. On a besoin d'un directeur ou directrice artistique. C'est évident. Moi, je n'ai pas de compétences à devenir directeur artistique. Et j'en ai pas envie, surtout. D'accord ? Mais par contre, je veux avoir mon mot à dire sur sa désignation ou son élection. Et évidemment, on va pouvoir remettre en question cette direction. Donc on va s'accaparer ces lieux de production culturelle. On va donc les conventionner. Alors, dans ce conventionnement, il faut absolument penser aux critères de conventionnement. D'abord, on va demander donc la cogestion de ces lieux. Ça va nous permettre d'enfin penser une véritable parité entre les hommes et les femmes. Poser la question de la diversité raciale. J'avais pas prévu d'en parler, mais une discussion que j'ai eue avec un directeur artistique hier au soir m'a ouvert les yeux sur un phénomène qui est en train de se passer. Il faut savoir que les ministères, les DRAC, les régions, etc., sont en train de penser en ce moment à des choses totalement délirantes. Comme l'enveloppe budgétaire de la culture est en train de se réduire, comme vous le savez, comme peau de chagrin. Eh bien, ils sont en train de penser à des labels. On va donner des subventions publiques à des lieux productifs, à des diffuseurs de spectacles vivants, qui correspondront à certains critères. Égalité homme-femme, diversité raciale, etc., etc. Alors évidemment, vous allez me dire, ah ben voilà une bonne nouvelle. Mais dans ce système d'attribution des dotations publiques, ça va générer une concurrence hallucinante entre les artistes. Et encore une fois, ce n'est pas nous qui décidons de l'attribution des dotations publiques. C'est eux. C'est les chargés de mission, c'est les ministères. Encore une fois, nous sommes toujours étrangers à la valeur économique. Ça, c'est on n'y a pas droit. Et c'est le geste formidable du régime général dont parlait Victor tout à l'heure. Des travailleurs qui n'étaient absolument pas habilités socialement et qui n'avaient peut-être pas les compétences de gestion, eh bien, ils ont pris le problème à bras-le-corps et ils ont fait eux-mêmes avec eux. L'efficacité qu'on connaît. Alors, évidemment, dans le conventionnement, ça ne sera que des subventions publiques gérées par nous et non pas par les collectivités territoriales. Évidemment que pour avoir le conventionnement des lieux productifs, interdiction d'un financement capitaliste, ça ne sera pas sur les marchés des capitaux qu'on ira se financer. Et un dernier point qui nous semble à Réseau Salaria et dans le groupe culture très important, c'est d'intégrer le public dans la cogestion et dans l'organisation décisionnelle. Le public est toujours à l'extérieur des lieux productifs. Et on prie tous les matins pour qu'il vienne. Parce que s'il ne vient pas, on ne pourra pas répondre aux critères des subventions publiques. La DRAC, elle demande combien d'entrées payantes. C'est dramatique. Donc, le public doit être une partie intégrante de la gestion des lieux productifs, de culturels. Un deuxième point important pour nous dans cette sécurité sociale de la culture, évidemment, c'est d'assurer la vie matérielle de tous ces nouveaux travailleurs de la culture. On va cesser ces distinctions absurdes sociales de la bourgeoisie, hein, artiste, puis technicien. Hein, on sait ce que c'est, ça, technicien. D'ailleurs, quand vous allez dans un festival, les artistes, ils bouffent avec le directeur artistique, puis technicien, ils bouffent entre eux. Hein, on ne va quand même pas mélanger les torchons et les serviettes. Non, on sera tous des travailleurs de la culture. On sait ce que c'est que la division du travail. Alors, pourquoi il faut absolument assurer cette vie matérielle? Alors, comment on l'assure? Ben, effectivement, en donnant un salaire à la qualification personnelle. Vous allez me dire, on y est loin. On est loin de tout cela. Eh bien, non. Nous avons déjà une avancée énorme grâce au fameux régime des intermittents du spectacle. Mais pour bien comprendre, il faut lire le régime des intermittents du spectacle d'une autre manière. Moi, je suis toujours frappé du lapsus que font les intermittents du spectacle en parlant de leur régime. Ils disent « notre statut d'intermittent ». Il n'y a pas de statut d'intermittent. Il y a simplement des régimes spéciaux, deux annexes, 8 et 10, à l'assurance chômage. Mais il faut prendre au sérieux ce lapsus. Oui, les artistes veulent un statut, parce qu'ils sentent bien qu'ils sont dans une précarité absolue. Justement, ça a été très, très bien évoqué tout à l'heure, il faut faire ces fameuses 507 heures. Rappelons qu'avant 1970, avant 1971, il fallait faire 1000 heures dans l'emploi pour bénéficier du régime de l'intermittence du spectacle. Conclusion, il n'y avait pas d'intermittent du spectacle. Les seuls qui étaient intermittents qui pouvaient bénéficier du régime de l'assurance chômage, c'était Depardieu, c'était toutes les stars, Catherine Deneuve, bon, voilà, ils s'en foutaient de ça. Dès qu'on a, en 79, abaissé de 1000 heures à 507 heures, à l'époque c'était 514, mais peu importe, système de calcul, eh bien, on a vu éclore toute une masse de travailleurs de la culture qui se sont nommés les intermittents du spectacle. Maintenant, c'est très connu. Alors, ce seuil, qu'est-ce qu'il faut en faire? Eh bien, il faut l'abaisser, il faut militer pour l'abaisser. Depuis 1979, aucune pratiquement revendication pour abaisser le nombre d'heures pour toucher l'assurance chômage. Et pourquoi on n'y arrive pas? Parce que nous lisons l'assurance chômage comme la bourgeoisie, encore une fois, nous demande de le lire. C'est-à-dire que le chômage, ce n'est pas du salaire, ce n'est pas de la production de valeur économique, c'est de l'aide. Toute la rhétorique de l'aide, cette saloperie qui fait de nous des êtres de besoin, comme dit Bernard Friot. Il a raison. C'est pour ça que nous ne militons pas, nous, ou alors nous militons tout le temps à côté, avec des mots d'ordre qui ne fonctionnent pas et nous perdons à chaque fois. Les statistiques sont les suivantes. Un intermittent du spectacle, dans ses revenus, 50% viennent de l'assurance chômage, 50% viennent des cachets. Ils ne travaillent pas entre deux cachets, les intermittents du spectacle? Ils ne produisent pas de valeur? La bourgeoisie dit non. C'est de l'aide. On est sympa avec les artistes. On a besoin de la culture, on veut bien la mettre au dernier plan. Elle arrive en dernier. Mais bon, quand même, elle fait vivre la nation, et puis ça ramène du pognon, c'est une vitrine nationale. Quand est-ce qu'on va arrêter de répéter les âneries de la bourgeoisie? Les intermittents du spectacle, quand ils touchent l'assurance chômage, ils touchent un salaire déconnecté de l'emploi. S'ils touchent un salaire, je renvoie à ce que je disais tout à l'heure, ça veut dire qu'ils produisent de la valeur économique. Évidemment qu'ils produisent de la valeur d'usage, tout le monde en produit, mais de la valeur économique, ils en produisent. Alors, un deuxième problème, c'est que nous répétons sans cesse la solidarité interprofessionnelle. C'est de la socialisation du salaire. Vous connaissez cette musique, hein ? C'est merveilleux. On ne consomme pas tout et on est solidaire d'un productif. Il faut arrêter avec ces conneries. La seule chose qu'un travailleur produit, c'est son salaire net et le profit quand il est dans l'emploi. Le reste, les cotisations, l'impôt, c'est de la production de valeur d'autrui. C'est sur notre fiche de paye, parce que c'est réparti comme ça, je ne rentre pas dans les détails, c'est un peu technique et théorique. Mais il faut bien se dire que la cotisation que nous payons, elle est produite par d'autres, par ceux qui la reçoivent, tout comme les subventions publiques. La subvention publique, c'est de l'aide. Moi, quand je vais m'agenouiller devant les chargés de mission, que je salue ici d'ailleurs... Ils sont très sympas d'ailleurs. qui finance mon ensemble. Eh bien, il faut faire allégeance. Il faut montrer qu'on a bien bossé, qu'on a eu beaucoup de concerts, qu'on a plein de projets artistiques, etc., etc., pour qu'enfin les institutions publiques nous aident. Non ! La mairie de Marseille, la région, le département, la DRAC, n'aident personne. La subvention publique que nous touchons, c'est nous-mêmes, sur un niveau collectif, évidemment, c'est nous-mêmes qui la produisons. La subvention, elle reconnaît le travail productif des artistes dans le domaine de la culture, puisqu'on parle de la culture. Vous voyez, j'insiste très souvent quand j'interviens sur l'aspect théorique, qui n'est pas finalement si compliqué. Mais ça peut paraître compliqué si on le lit à l'envers, parce qu'on a vraiment des habitudes de pensée. Mais si on dit qu'un intermittent, quand il touche le salaire du chômage, eh bien, on redonne de la dignité aux chômeurs. Hein ? Donc on va continuer. Nous, on propose à la Sécurité sociale de la culture de continuer ce mouvement. Abaissement des conditions pour arriver au final à zéro heure. Zéro heure dans l'emploi. Plus être payé par le cachet, par le fameux CDDU, contrat à durée déterminée d'usage. Les diffuseurs paieront des cotisations au prorata de leur valeur ajoutée à des caisses de salaire. Et ces caisses de salaire paieront les artistes, et les artistes auront un véritable statut. Moi, ce qui m'en... Dans mon activité professionnelle, ça y est, je chauffe. Dans mon activité professionnelle, j'estime que je fais trop peu de concerts. Qui m'empêche de faire des concerts ? Eh bien, le marché capitaliste. Si j'avais un salaire, comme j'ai un salaire, j'ai une double activité. Je suis professeur, donc on vous l'a rappelé, titulaire de la fonction publique territoriale. Donc quoi que je fasse, je suis payé. Pendant le confinement, j'ai fait zéro heure de cours. Zéro heure de cours. J'ai été payé. J'ai travaillé, puisque je touchais mon salaire. Je faisais autre chose. Par contre, confinement, alors là, j'ai rien touché. Aucun cachet. Il faut arrêter d'être payé au cachet. Il faut être payé à sa propre qualification, avec une carrière salariale qui, à Réseau Salariat, on préconise de 1 à 3. On part à 1 800 en début de carrière et on finit à 5 000 € par mois en fin de carrière. C'est pas, on milite pas pour la pauvreté. Moi, en tant qu'artiste, je toucherai jamais 5 000 €. Mais Renaud Capuçon, salut Renaud, c'est une star du classique qui passe tout le temps à la télé et aux radios. Eh bien, lui, il ne sera pas d'accord, évidemment. Parce que lui, 5 000 €, c'est les tout petits cachets qu'il touche par concert. Il peut toucher jusqu'à 45 000 € par concert. Je vous l'apprends, parce que je sais que... Moi, je suis dans la bourgeoisie, je connais les tarifs. Hein. Je suis pas payé les classicos, ils sont pas payés au chapeau. Les nababs dont je parlais dans mon introduction, c'est ça. Mais c'est rien du tout, ces nababs. C'est quoi ? C'est une centaine de personnes sur le territoire. Sur les 130 000 intermittents. 130 000 intermittents, hein, plus tous les autres qui n'arrivent même pas à accéder aux intermittents, à l'intermittence du spectacle. Donc on ne va quand même pas s'emmerder pour des Renaud Capuçon. D'accord ? Alors, je continue parce que j'imagine que j'explose tous les temps. Qu'est-ce que c'est rigolo. Subvention publique, j'en ai dit déjà un mot. Critères de qualification. Ah oui, alors comment on va donner, quels seront les critères de qualification pour nommer un artiste ? Dire, ah ben, toi tu es un artiste, toi tu n'es pas un artiste. Alors partons de l'existant déjà. Aujourd'hui, qui est artiste ? Celui qui est validé socialement par le marché capitaliste. Je donne un exemple. Je fais un concert. Je joue du Chopin chez un copain qui a un piano à queue dans son salon. Beau salon comme ici, par exemple. Par amitié. Je produis de la valeur d'usage. Je ne produis pas de valeur économique. Ce même programme, ce même Chopin que je vais jouer parce que je suis embauché
par un théâtre, que sais-je, là, je vais toucher un cachet, donc je vais produire de la valeur d'usage et je serai réputé produire de la valeur économique. Et c'est une élite, les directeurs artistiques, qui décide, lui, c'est un professionnel de la musique. Ah non, toi, si tu ne vis pas de ton activité, tu es un amateur. Donc moi, si demain, je suis à zéro heure, assis à zéro concert par an, eh bien, je tombe dans l'amateurisme. Ouaf, ouaf, ouaf. Voilà. Alors la bourgeoisie, elle dit, mais si tu n'as pas de concert, c'est que tu n'es pas très bon. Voilà, hein, la méritocratie bourgeoise. On sait ce que c'est. Donc on ne va quand même pas s'emmerder avec ça. Donc les critères de qualification pour les artistes, il y a débat encore entre nous. Moi je fais partie du camp qui dit qu'il faut absolument qu'il soit le plus large possible. Qu'on n'emmerde pas les artistes. Que surtout pas l'esthétique soit un critère de qualification. Parce que on ne va quand même pas mettre un politburo qui va décider toi tu es artiste ou tu n'es pas artiste. Ça, ce n'est pas possible. Alors, le diplôme peut être un critère de qualification. Les gens qui ont fait des études de musique dans des conservatoires nationaux, supérieurs, tout ça, ils ont leur diplôme. Eh bien, évidemment qu'ils auront droit à leur qualification. Aujourd'hui, ils ne l'ont pas. Hein. Moi, j'ai 3 premiers prix de Paris. Ça ne donne aucun droit à une qualification. Hein. Aucun. Donc, il faut absolument que ces gens qui ont des diplômes soient qualifiés d'office. Mais pas que. Il faut aussi que ceux qui décident de ne pas rentrer dans le système éducatif aient droit à leur qualification. Voilà. Et je vais presque m'arrêter là, parce que voilà. Merci.
Merci beaucoup Rémi. C'est pas encore le temps de la pause, je suis désolé. Je vais être rapide, j'en ai pour 10 minutes. C'est pour raccrocher les wagons à nos histoires d'artistes, auteurs, autrices. Ça fait parfaitement le lien avec tout ce dont tu as parlé, du moins j'espère. Déjà, je voulais vous remercier pour vos présentations qui étaient hyper enthousiasmantes, hyper excitantes. Pareil pour ce matin, c'était vraiment très très bien. Ça donne des perspectives vraiment désirables et ça donne envie de s'engager et de lutter. Donc j'espère que les camarades qui sont dans l'Assemblée, ça leur donne envie. Parce que voilà, notre titre c'était la lutte ça paye. Je pense qu'on est vraiment dedans. On a été dedans toute la journée. Je voulais remercier la R22 aussi pour la diffusion en live. C'est super intéressant, il y aura un podcast en plus, donc c'est trop bien. Je salue les personnes qui nous écouteront a posteriori en podcast. Peut-être que quand vous écouterez, il y aura une sécu de l'alimentation, une sécu de la culture, on croise les doigts. Avant de faire notre petite pause et de revenir pour le temps de discussion, voilà tout ce que j'ai décrit tout à l'heure, moi je vais vous parler de cette petite brochure. Est-ce que Colette, tu peux me la filer, s'il te plaît ? Merci beaucoup. Cette petite brochure dont je pense que qui va faire le lien avec ce dont tu parlais un petit peu, Rémi, du moins sur un pilier dont tu as parlé. J'espère que ça pourra nourrir les discussions qu'on aura tout à l'heure. C'est pour une continuité de revenus des artistes auteuristes. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. On s'est un peu teasé, un peu spoilé. Pour vous faire un petit historique, en fait, fin 2020, la commission culture du PCF a constitué un groupe de travail avec le SNAP-CGT, le STAS-NTSO, la BUSE et d'autres personnes. Ça faisait suite au confinement où, en fait, pour la première fois de notre vie, on a eu une continuité dans notre revenu, du moins pour les personnes qui ont accès aux ZTPE. C'était pas tout le monde. Moi, pour ma part, c'était la première fois que j'avais mon RSA tous les mois, plus 283 euros en plus. Et c'était vraiment voilà, incroyable. Ça changeait notre vie, mais à un point. Enfin, j'ai jamais eu autant d'argent, j'ai jamais été aussi stable et serein. C'était génial. Mais qu'est-ce que ça disait, en fait, qu'on est producteur et productrice de valeur que pendant le temps d'une crise ? Du coup, non, ça, évidemment que non. Donc, on a bossé sur une question qu'on abordait depuis longtemps avec la BUSE. Cette continuité du revenu, cette intermittence, comment on pouvait nous conquérir ce droit-là en tant qu'artiste, auteur et autrice ? Cette proposition de projet de loi, elle vise donc à instaurer un revenu de... Pardon, je ne parlais pas très bien dans le micro. Un revenu de remplacement pour les artistes, auteurs et autrices temporairement privés de ressources. Donc c'est une proposition de projet de loi, une PPL. Elle a été déposée à l'Assemblée en février 22. Depuis, il y a eu des élections législatives, donc il faut redéposer. Ça sera peut-être en janvier. On est en négociation avec le groupe. Dans le but de donner un peu de la visibilité à ce projet et de montrer que ça existe et de rameuter des artistes, auteurs et autrices dans notre, dans notre sillon, on a fait cette brochure que vous pouvez retrouver un peu partout dans l'espace. Pour celles et ceux qui nous écoutent en ligne, vous pouvez aller sur le site www.continuité-revenu-au-pluriel.fr www.continuité-revenu-au-pluriel.fr. On en a fait une présentation à la Bourse du Travail à Paris il y a 10 jours. On en fera des présentations à Marseille. On est en train de s'organiser ça pour que tout le monde puisse comprendre ce qu'il en est, se l'approprier et le porter, et la porter. Parce qu'en fait, ça sera un projet de loi historique dans la conquête de nos droits. C'est l'avancée sociale la plus importante depuis les premières lois post-révolutionnaires 1791 et 1793 sur le droit d'auteur. Donc voilà, c'est un tournant. Donc en attendant, je vais vous la décrire, en attendant qu'on fasse ces ateliers de présentation, je vais vous la décrire en deux mots. Tout d'abord, qui est-ce que ça concerne ? Les artistes, auteurs et autrices, c'est énormément de métiers. Pour les personnes qui sont dans la petite salle à droite, vous avez un petit schéma qui montre bien tous les métiers que ça comporte. Donc il y a les écrivains et écrivaines, traducteurs et traductrices de l'audiovisuel, du livre, du jeu vidéo, création de jeux vidéo et également de logiciels. Il y avait ce matin le Stras, il y a pas mal de gens qui sont TDS, qui peuvent être artistes auteurs. Il y a les plasticiens, plasticiennes, etc. Bref, c'est hyper large. Nous, on est rattachés au régime général depuis la fin des années 70. Ce qui veut dire que la Sécu nous octroie déjà certains droits de salariés, pas tous. On a accès à la retraite dans les mêmes conditions que les salariés du privé. On a accès à la branche famille de la Sécu, donc RSA, AAH, APL, etc. Et on a accès à la santé. À partir d'un certain de seuil de revenus annuel, on va pouvoir s'ouvrir des droits aux indemnités journalières, congés paternité et congés maternité. Et le dernier, à partir de 2012, on a eu accès à la formation professionnelle. C'est très récent, c'est le fruit d'une lutte qui a duré 10 ans, mais qui montre bien que notre régime, il est mouvant, qu'on peut se battre pour conquérir des droits, et on va bientôt conquérir le droit au chômage, et qu'ensuite, on va conquérir ce qui nous manque. Donc, pour celles et ceux qui connaissent un petit peu le salariat, vous voyez bien que j'ai pas parlé de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles, ni des congés payés, ni du chômage. Donc, c'est-à-dire que nous, si une sculptrice se casse le dos parce qu'elle transporte des œuvres lourdes, eh ben, elle n'aura rien. Si un graveur s'intoxique et chope une maladie grave parce que pour faire mordre ses plats qu'il utilise des trucs toxiques, il n'aura rien. Et alors pour les congés payés, ça c'est une revendication que très peu de monde a. Vraiment, c'est inimaginable pour nous de se dire qu'on va être payé pour être en congé. Enfin, voilà. En revanche, cette histoire de salaire, je vais trop loin dans cette histoire de chômage. Je vais revenir après. Cette histoire de chômage, ça a le vent en poupe un petit peu avec cette proposition de loi, cette brochure. On est de plus en plus de collectifs et de syndicats à militer pour. Du coup, voilà, ça, on y approche. Et concrètement, comment ça pourrait fonctionner ? En fait, on a vu que la Sécu nous considère déjà comme des salariés par moment. Donc, il suffirait pour nous ouvrir ces droits de salarié, elle va procéder à un calcul. Elle va prendre tous nos revenus annuels, elle va les diviser par le taux en vigueur du SMIC, et ça va lui donner un nombre d'heures SMIC, ce qu'on appelle le principe d'équivalence financière. Si j'ai gagné 6500 euros sur l'année avec mon activité d'artiste, on va le diviser par le taux en vigueur du SMIC 11,52. Ça va me donner 564 heures SMIC. Avec ça, je ne vais pas avoir validé tous mes trimestres de retraite, je vais en valider 3, et je n'aurai pas accès aux indemnités journalières, ni aux congés maternité-paternité, parce que les seuils sont trop hauts pour nous. Pour le salariat, ça fonctionne très bien, mais pour nous, vu les revenus qu'on a qui sont très faibles, parce que le travail gratuit est très lourd, enfin bref, vous connaissez très bien, c'est très difficile d'accéder aux droits. Avec cette PPL, ce qu'on propose, c'est d'accéder à un droit au chômage à partir de 300 heures SMIC, donc à peu près 3400 euros de revenus artistiques dans l'année. Je suis d'accord, le seuil est encore trop haut par rapport aux revenus, vous le verrez dans la brochure, on gagne très très peu d'argent. Donc c'est encore trop haut, c'est en négociation, on va devoir se battre, mais il faut savoir qu'en fait, on part de très très loin. Il y a eu une tribune en mai 2020, pendant le premier confinement, qui s'intitulait « Pour une intermittence des arts et des lettres », où le camarade proposait un seuil d'accès à 900 heures SMIC, donc à peu près 10 000 balles. personne ne les fait, sauf ceux qui gagnent déjà de l'argent, auquel cas ça aurait aucun intérêt. Les Depardieu dont tu parlais, tous ces gens-là, voilà, on s'en fout. Du coup, nous, bon, on a fait descendre le seuil, Évidemment, le but, c'est d'avoir un seuil à zéro, mais ça, bon, on sait que si on demande ça, on l'aura pas. Donc, bon. Et une fois que, voilà, une fois qu'on a atteint seuil, ben, en fait, on atteint l'assurance chômage. On va toucher un pourcentage du revenu de référence qu'on aura déclaré. Donc, imaginons qu'on décide qu'on touche 70% du revenu qu'on avait eu. C'est-à-dire que si, en moyenne, j'ai eu 1900 euros par mois artistique, ben, mon droit à l'assurance chômage, ça sera 1330 euros. Voilà, c'est 70%. Ça sera décidé collectivement, ça, ce taux de remplacement. Mais, évidemment, comme on gagne très peu d'argent et que le seuil il est à 3500 euros, si on prend 3500 euros et qu'on le divise par 12, ça fera 283 euros. Si on vous donne 80% de ces 283 euros, c'est absolument ridicule. Ça ne fait pas vivre, c'est moins qu'un RSA, donc ça n'a aucun sens. C'est pour ça qu'on a mis en place un plancher qui correspond à 85% du SMIC. Si on conquiert ce droit-là, personne ne touchera moins de 85% du SMIC, soit à peu près 1200 euros par mois. Donc, pardon, ça fait beaucoup de chiffres, mais si vous ne devez retenir qu'un seul chiffre, c'est qu'à partir de 3500 euros de revenus annuels artistiques, on s'ouvre un droit au chômage de 1200 euros par mois. Donc vous voyez que c'est quand même plutôt intéressant. Et pour vous dire un mot sur le financement, nous, dans notre secteur d'activité, les diffuseurs, donc c'est les employeurs, ne payent des cotisations qu'à hauteur de 1,1%, contrairement aux intermittenteux, où là, c'est 46%. Donc on va les faire raquer, on va leur appliquer tout simplement la cotisation chômage que payent tous les employeurs et les employeuses, donc 4,05%, ce qui ferait que nos diffuseurs cotiseraient à 5,15%. Et au-delà d'une nette amélioration de nos conditions matérielles, ce qui en soi est déjà un objectif et pas loin d'être une fin en soi, enfin ça suffit à soi-même, ça nous permettrait d'être reconnus comme étant des travailleurs et des travailleuses tout le temps. Là, on est constamment en train de se battre auprès d'institutions qui nous harcèlent, qui nous pourrissent la vie. La CAF, le pôle d'insertion, Pôle emploi. Nous, c'est devant ces institutions qu'on doit s'agenouiller pour quémander de l'argent. Et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Pareil, je ne vais pas vous l'apprendre, vous le connaissez tous et toutes par cœur. Ça nous permettrait aussi d'avoir accès à des choses de la vie quotidienne qui sont tout à fait classiques pour la plupart des travailleurs et des travailleuses, mais qui pour nous sont extrêmement complexes. Déménager. Moi, quand je veux déménager, bah, je suis obligé de faire des faux dossiers. Je fais semblant que je suis un étudiant pour que ça soit sur l'argent de mes parents, parce que ça serait mes garants. C'est à 35 ans, ça commence à être très compliqué et très énervant. L'accès à la vie de famille aussi. J'essaie de me persuader depuis toujours, et c'est sûrement un peu vrai, que je veux pas de gosses. Mais peut-être que si j'avais un salaire de 2000 balles par mois depuis toujours, bah, peut-être que j'en aurais des gosses. En l'état actuel des choses, bah, c'est tout simplement impossible. Et puis quand désolé, je me répète pour celles et ceux qui étaient à la Bourse du Travail à Paris, j'avais déjà parlé de ça. Mais en préparant ça à Paris, j'en parlais avec un ami intermittent et il m'a parlé des emprunts bancaires, lui. Moi, dans ma situation, qu'est-ce que je vais imaginer un emprunt bancaire? Ça m'a tellement étonné qu'il me dise ça. Mais pour nous, c'est impossible, strictement impossible. Du coup, c'est ces choses-là, un peu de la vie quotidienne, qui seraient permises pour nous. On y aurait le droit. Enfin, bon, bref, c'est pas de faire un emprunt, hein, mais c'est juste d'avoir la possibilité de le faire, quand même. Et en plus de tout ça, si on va aborder des questions un petit peu plus politiques, le fait de maintenir une continuité du revenu et de notre condition de travailleur et de travailleuse, alors qu'on est dans une discontinuité de l'engagement, est-ce qu'on serait pas en train de nous rapprocher tout doucement là, de ce salaire à vie finalement, parce que ce serait une manière de délier l'activité du salaire, ce qui est très important parce que nous on est payé qu'à la tâche. On touche de l'argent que quand on expose, quand on vend, quand on fait quelque chose. Donc si on arrivait à renverser ce truc-là, ça serait quand même assez intéressant. Ça serait... Oh, pardon, non, j'allais me répéter. Et donc voilà, quand on délie l'activité du salaire, attention, voilà, on ne parle pas du salaire dans son acception capitaliste, mais plutôt d'un salaire socialisé. Tu en as un petit peu parlé. On veut tendre vers un salaire communiste, en fait. C'est ça qui nous intéresse. Comme la retraite, qui permet de continuer à percevoir un pourcentage de son salaire après l'emploi. En fait, on veut vraiment déconnecter ces choses-là. Avec cette proposition, on inverse donc complètement ce rapport. Et plus on se rapproche d'un seuil d'accès à 0 euros. C'est exactement ce que tu demandais avec les 0 heures. Nous, c'est ce que la BUS veut, c'est peut-être les syndicats le veulent aussi. Mais voilà, on va se battre progressivement pour se rapprocher du salaire à vie dont tu parlais. Là, nous, on parle de la culture parce que c'est le domaine dans lequel on travaille, dans lequel on se bat, mais c'est évidemment un salaire à vie qu'on veut pour tous et toutes. Donc vous voyez, finalement, ça serait comme l'intermittence, cette proposition de loi, ça serait une autre marche pour d'autres types de travailleurs, pour s'en rapprocher. Et finalement, bon, pour conclure, qu'est-ce qui nous rapproche, je pense, cet après-midi à cette table ronde, à mon sens, c'est de créer des enclaves communistes dans une société capitaliste, partir du déjà-là chez Afrio et à Réseau Salariat et à l'étendre à d'autres secteurs que la santé pour les sécu sociales ou que le spectacle vivant pour le salaire hors de l'emploi. En fait, là, on va l'étendre aux travailleuses de l'art, plutôt art visuel. Parce que c'est collectivement qu'on va reprendre la main sur la production, sur le conventionnement, sur le travail. Tout ça ne doit plus être préempté par un groupe social restreint qui, en plus de détruire nos droits et nos vies, détruit l'habitabilité de la planète pour nous, évidemment, mais pour énormément d'espèces. Je vais juste conclure en disant qu'en préparant cette petite table ronde, ça m'a fait penser au bouquin de Lordon, Figure de communisme, dans lequel il nous dit qu'en gros, entre le capitalisme et l'humanité, ça se joue entre eux ou nous. Et que par conséquent, le communisme est une idée qu'on doit réinstaller sur le devant de l'histoire. Et donc il faut montrer des figures et refaire une possibilité. Aujourd'hui, vous et nos invités du matin, vous nous avez montré des figures, vous nous avez montré que c'était possible. Et donc je voulais vous remercier pour ça. Et on va aller en pause.